Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Au bout du foot. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes bien installés pour cette émission de football. Avec nous, pas mal de sourires autour de la table. Là, on voit des personnes très heureuses, notamment Lucas. Comment ça va, Lucas? Je te pose même pas la question, je suppose que ça va très bien.
Je sais déjà, on a eu un beau week-end de foot, belle semaine de foot, tout va pour le mieux.
Super. Shenkenza, comment ça va?
Ouais, très bien, très bien. Le week-end a été très bien avec du foot.
T'étais en cours d'anglais, là, tu as commencé à te présenter en anglais, alors. Ah, Shenkenza.
Ouais.
Comment ça va, Alexandre?
Ça va, super.
Ça va? Toi, t'as pas bougé de ta place, hein?
J'ai pas bougé de ma place, non. J'ai passé un bon week-end, en tout cas.
On parle du PSG, mais toi aussi, ça va très très bien. T'as passé une semaine assez exceptionnelle, toi.
12 buts en 2 matchs.
Il y a un scénario de fou.
Ouais.
On va y revenir, bien évidemment. Hein. On attend aussi Philippe Carnu qui s'hydrate un peu, qui va arriver juste après. Avec nous, bien évidemment, Jason à la technique. Hein. On va commencer avec cette émission avec la Ligue 1, bien évidemment. Le PSG tenu en échec face à Reims, 1-1 à domicile. Hein. On peut s'y attendre un peu. Généralement, après les gros matchs de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain, ils ont plus ou moins du mal en Ligue 1. Monaco qui s'impose à domicile 3-2 face à Rennes, les Rennais qui ne vont plus du tout, même avec l'arrivée de Seko Fofana et de Sampaoli, ça ne va plus du tout. Mais on a vu un super mercato arriver, je ne sais pas si vous connaissez le joueur Furuhashi qui jouait au Celtic, moi je le suivais, franchement Manchester City était dessus un moment et il le voulait.
Qu'ils ont échangé avec Diogo Jota, là, l'heure, c'est ça? Le Jota de Rennes?
Oui, je pense, il me semble.
Chacun fait des milliers d'allers-retours.
C'est ça. Et j'avais bien suivi son dossier, parce qu'au Celtic même, il était pas mal du tout. Et à un moment, Pep Guardiola le voulait dans son équipe, mais ça n'a pas pu se faire, je ne sais pas pourquoi. Et là, finalement, il débarque à Rennes. J'espère que ça ira mieux pour les Rennais. J'espère que ça sera une très bonne recrue aussi pour la Ligue 1, à suivre de très près. On continue avec Lyon qui n'y arrive plus et qui concède le nul. Hein. Ça se sentait hein, dans les toutes fins de. Dans le fin de match, dans les dernières minutes, on sentait qu'une équipe de Nantes qui poussait avec une entrée notamment de Mustapha El Mohamed et qui a marqué son but à la 89e minute et qui ont tenu Lyon en échec. Ça ne va plus du côté de Lyon. Pierre Sage remis en question. Et bien évidemment, Lille qui se font surprendre aussi par Strasbourg à domicile et qui perd 2-1. Nice qui s'impose à domicile face à Marseille avec une prestation décevante des Marseillais à l'Allianz Arena. Quels sont vos faits marquants de cette journée? On commence avec qui? Shenkenza, vas-y, je t'en prie.
Oui, avec Nice-Marseille, surtout le match de Van Gessen vraiment, qui était homme du match, qui nous fait une très grande prestation et tout ça. Même si les Marseillais n'étaient pas au rendez-vous, je les ai sentis un peu en deçà, je ne comprends pas. Bon. Peut-être ça a été quoi, peut-être le coaching qui n'est pas passé ou quoi, mais je n'ai pas vu vraiment la fougue des derniers matchs vraiment de Marseille et tout ça. Mais j'ai vu que Nice aussi, ils étaient mieux organisés, ils ont mieux appréhendé le match. Ça aussi, c'est des choses aussi qui comptent au football au niveau de la tactique. Et ils ont gêné même les Marseillais, même sur les relances et tout ça, même jusqu'à dans le camp adverse en fait. Il y a eu un peu de gegenpressing, c'est-à-dire à la perte du balle automatiquement, on accentuait sur le pressing. Donc du coup... ils arrivaient vite à récupérer le ballon, donc du coup, ils arrivaient à le garder aussi, organiser des transitions. En tout cas, ce fut un beau match, mais Marseille n'était pas au rendez-vous.
Merci, Shenkenza. Qu'est-ce que tu en as pensé du match de Marseille, Alexandre?
Match de Marseille, oh, c'était compliqué quand même. Hein. C'était compliqué, j'ai juste vu la première mi-temps, ouais. Parce que je regardais les deux matchs, forcément. Mais le match de Marseille, ouais, c'était compliqué, surtout quand tu sais en plus que Paris et que Monaco... Enfin, que Paris pardon, a perdu des points, que tu peux te rapprocher de Paris et que tu parviens pas à recoller au score. Mais Après, voilà, c'est ce que disait Stéphane tout à l'heure dans l'émission de Philippe, et je suis un peu d'accord, c'est qu'il n'a pas rendu service en mettant Brassier titulaire, sachant que Guessant, en plus, fait vraiment un bon match. Et on parlera de Nice peut-être un peu plus tard, mais cette équipe, elle est vraiment frustrante, parce que ce qu'elle produit en Europe, c'est totalement inadmissible, parce qu'ils veulent se qualifier en Europe, très bien, mais pourquoi faire? Si c'est pour jouer la dernière place et venir à reculons le jeudi soir, ça sert strictement à rien et ça aide pas du tout le football français, alors que tu vois ce qu'ils sont capables de produire en Ligue 1 tous les week-ends. Donc voilà, pas grand chose à dire sur ce match, à part que Marseille laisse filer des points, mais que c'était une équipe de Nice qui était plutôt cohérente dans ce qu'elle fait actuellement.
Merci. Marseille, un peu à Marseille en dessous, hein, qui n'ont même pas su mener une révolte en deuxième mi-temps, hein, notamment en encaissant le second but juste après la mi-temps. C'était très difficile pour les Marseillais. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Lucas ?
Ça faisait un peu de la peine de les voir comme ça, pour être honnête, parce qu'il y avait vraiment. C'est comme s'ils n'y arrivaient pas. Comme s'ils n'arrivaient pas à développer leur jeu, comme s'ils n'arrivaient pas à mettre leur pressing en place. Chekenza l'a très bien dit, Nice les a étouffés. Et en fait, les Marseillais, ils ont été totalement inoffensifs. Je pense, je vais rejoindre tout le monde évidemment, mais Brassier, c'est terrible ce qui lui arrive. Hein. Je veux dire, le premier but là, que ce soit la première intervention, la deuxième ou quand il essaye de
ou la troisième.
Sortir la balle alors qu'au lieu de la tacler, il essaie de je ne sais pas faire quoi, mais franchement, c'était vraiment raté. Donc ouais, ça m'a fait beaucoup de peine. J'ai l'impression qu'il est en train de complètement perdre son joueur des Herbies. On en a vu des défenseurs comme ça hein, qui font une très très grosse saison et arriver la saison d'après chez une vraie grosse équipe, ils ont du mal à confirmer. Et là, ça s'est vu sur ce match. Mais j'ai trouvé que globalement, les cadres n'étaient pas à la hauteur. Greenwood, Hojbjerg, Rabiot, je ne les ai pas vus faire un match intéressant. Donc à partir de là, quand les cadres ne sont pas au rendez-vous, ce n'est pas étonnant de voir que l'équipe patine.
C'était difficile pour Lilian Brassé, hein, qui vient de Brest et qui entame sa première saison. Bon, après, c'est son premier match où vraiment c'est un match difficile spécialement pour lui. Ça arrive. Faut pas oublier que c'est un jeune joueur. Hein, il a quand même 25 ans, quoi. Bon, Balerdi, ça a été l'un des joueurs qui a le mieux joué, on va dire. Mais tout le reste, ça a été pauvre offensivement, aussi bien offensivement que défensivement. Et aussi, pour passer à l'autre Olympique, Lyon, ça va pas du tout non plus. Lyon qui peine, qui n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre. Chez Kenza, qu'est-ce que tu en penses?
Ouais, vraiment, avec Piessage, il y a eu beaucoup de retournements dans cette saison et tout ça. Et puis, en fait, il y a eu pas mal de jeunes qui sont montés, tout ça, l'équipe. Bon, moi, je trouve que Lyon, ils sont un peu décimés, en fait. Quand tu regardes les matchs, en fait, on a comme l'impression que par moment, il y a deux équipes qui jouent, en fait. Il y a une équipe qui joue très bien au ballon. Et par exemple, si on fait des jeux, on voit que vraiment, il n'y a pas le moral et tout ça. En fait, le côté mental, ce n'est pas beaucoup travaillé. On voit aussi que oui, sur les coups de pied arrêtés, il y a certaines choses qui ne sont pas travaillées, en fait. On voit qu'en fait, il y a du potentiel, mais il faut du travail à l'interne. Il faut restructurer, il faut donner un peu de mental. Voilà, il faut un peu de, comme on dit, par moment, il faut un peu de discipline. Parce que la discipline, vraiment, c'est la devise qui permet d'aller loin. Il faut un peu de discipline déjà pour que l'équipe soit restructurée. Pour qu'au fait, ils aient un peu envie, mais parce qu'il y a du talent. On ne peut pas dire que cette équipe manque de talent, mais il n'y a pas de, en fait, c'est-à-dire, il n'y a pas d'accomplissement, en fait. C'est-à-dire que les choses, le match, ils peuvent bien l'entamer. Voilà, les premières séquences de jeu, ça part, le ballon circule. Ils arrivent à trouver des ailiers qui font des 1-2 au niveau du milieu de terrain, ça se passe bien. Mais sur des actions, il n'y a pas de concrétisation. Au niveau de la défense, oui, il y a des faits de jeu. On voit que par moment, des jeunes qui manquent de concentration, en fait. Donc, je trouve que l'équipe est un peu lassiste, en fait. C'est-à-dire, voilà, il y a pas de, en fait, ça manque de sérieux. Piessage, c'est pourquoi il est remis en question, parce qu'à un moment donné, mais les équipes comme Lyon, normalement, ça joue l'Europe, au minimum l'Europa League ou soit la Ligue des Champions. Donc
on va quand même pas oublier ce que Piessage a fait avec Lyon, hein, de où est-ce qu'il les a sortis.
Oui, bien sûr, mais après il suffit pas, en fait, écoute, c'est comme si tu les as fait sortir du trou. Et après, tu les ramènes dans le gouffre, en fait. Quand on voit le bout du tunnel, c'est pour avancer. C'est pas pour reculer, en fait.
Ils sont quand même sixième. Ils sont quand même sixième. Ils sont sixième à 7 points de Marseille, quand même.
Mais il y a un objectif, en fait. Il y a un objectif. Ils sont sixième, comme il a dit, en fait. C'est-à-dire quoi?
À 3 points, match prochain, ils peuvent se retrouver dans les
4. Il n'y a pas de constance, en fait. C'est-à-dire que c'est en temps de scie. On voit qu'il y a des matchs où ils peuvent prendre des points, mais ils ne le font pas, en fait. Oui, parce qu'à un moment donné, même s'ils sont sixième, oui, comme on le dit, sixième, oui, c'est un beau classement, mais c'est pas, en fait, c'est pas flamboyant, comme on dit, c'est pas waouh, c'est pas du jeu comme on a connu à la Lyonnaise et tout ça, en fait. Oui, c'est-à-dire que c'est des piètes prestations. Il y a des bonnes prestations, après il y a des prestations qui sont en deçà, c'est pas ce qu'on a envie de voir, en fait.
Mais est-ce que tu ne penses pas que la situation globale du club, ça pèse sur les joueurs aussi. Le fait que tout le monde soit quasiment à vendre, le fait qu'il n'y a aucune visibilité sur ce qui se passe dans 6 mois et que la rétrogradation administrative elle a déjà été prononcée, bon, ça, vu tout l'argent qu'ils ont récupéré, ça n'aura sûrement pas lieu. Mais tu vois, l'instabilité du club, tu ne penses pas que ça les pèse aussi?
Non, je ne crois pas, parce que les joueurs, quand on est joueur, on est professionnel en fait.
Oui, c'est que, facile de dire ça.
On est professionnel, c'est facile, mais ça compte. Mais... Oui, on peut dire ça. On est professionnel quand même de...
Oui, je comprends, voilà. En fait. C'est-à-dire quoi, l'État, en fait, le club, voilà, tout ça, mais... Quand on est professionnel, c'est-à-dire quand
on... Chekenza, excuse-moi, mais là, on voulait te parler de... En fait, les joueurs sont humains.
Oui.
Tu sais que si toi, demain, tu vis à Lyon, tu vis, t'as ta famille avec Lyon, tes enfants sont à l'école, etc., t'es avec Lyon, mais tu sais même pas si la semaine prochaine, tu seras pas dans un avion pour partir dans un autre pays.
Là, ils ont plus de banque. La moitié de leur banque a été vendue.
Il y en a, c'est comme ça, tu vois. Et même là, Cherki, moi, pour moi, Cherki, là, il fait de bons matchs, mais même Cherki, je comprends pas pourquoi il joue pas les 90 minutes. Tu vois, dès que Cherki est sorti avec l'Olympique lyonnais, on a vu, bah, les journalistes même sont vite empressés de poser la question aux joueurs. Dès que Cherki est sorti, ça a manqué quelque chose. Tout de suite, on a vu, il y avait plus
très peu de création.
Très peu de création sans Cherki.
Hein.
C'était très, très, très faible.
Je dis que c'est pas au moment. On a deux équipes, en fait. Il y a deux visages qu'on voit, en fait. Il y a un très bon visage qu'on voit. Ensuite, on voit une équipe qui est décimée, en fait, qui n'a pas de créativité et tout. Et à un moment donné, ben, ça laisse vraiment de la place à l'adversaire pour prendre confiance, un moment pour développer son jeu. Donc. Comme tu dis, en fait, oui, ça peut être aussi ça, aussi ça peut peser, mais je crois que déjà quand on est joueur de foot, quand on signe dans un club, on sait qu'à tout moment on peut partir, en fait. C'est-à-dire que oui, quand on signe dans un club, même si on a un contrat,
oui, mais c'est pas pareil chez Kenza. On comprend ce que tu veux dire.
Non, mais
dans
à Lyon, il
n'y
a pas de stabilité, ça. Oui,
il n'y a pas de stabilité. Et que ça peut jouer sur les performances de l'équipe. Voilà,
il n'y a pas de stabilité, mais à un moment donné, les joueurs aussi, ils doivent se donner. Même s'il n'y a pas de stabilité. Il faut aussi que voilà qui mouille le maillot, il faut aussi que voilà qui fasse le nécessaire, parce que Lyon mérite mieux, selon mon point de vue. Alors, à moins, oui, Lyon mérite au moins le top 3 quand même.
Top 3 c'est difficile, mais le top 4 3, même 5 avec Lille qui fait une très belle saison. Moi, je trouve que c'est Nice qui pour le moment est un peu trop par rapport à ce qu'ils produisent, malgré la bonne prestation d'hier que je n'enlève pas. Pour moi, s'il y a une équipe qui n'est pas à sa place, c'est Nice. D'ailleurs, vu ce qu'ils montrent en Ligue Europa, je ne souhaite pas qu'ils aillent en Ligue des Champions, mais c'est... moi je pense que Lille, vu la stabilité du club, malgré... et en plus Zegrova, il revient dans un mois et demi, je pense que les sprints finales, ils vont être bons.
Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé, Alexandre?
Franchement, Lyon, à l'image du match aussi qu'ils ont fait en Europa League, hein, ça stagne. Mmh. Et moi, je trouve qu'il y a un problème qu'on a moins mentionné, c'est le problème de numéro 9. Parce que la Lacazette, c'est très compliqué, on l'a vu. On l'a vu encore là, et Mikotadze, le problème c'est que quand il rentre, il fait pas non plus il fait pas le taf et Ryan Cherki, on a Ryan Cherki qui est en moins bon. Et pour revenir sur ce que vous disiez aussi, c'est que là je suis pas trop d'accord avec ce que tu dis, Chekenza, c'est que forcément je suis d'accord, en fait je vois ce que tu veux dire dans le fait que t'as un contrat, t'es professionnel, tu dois jouer à fond sur le terrain, mouiller le maillot, etc. Mais c'est vraiment compliqué quand t'as un contexte sportif comme celui de Lyon. Et en plus économique, et quand en plus t'as un président qui prend la parole et qui défonce les joueurs en public, etc., c'est compliqué. Moi, je peux comprendre que Ryan Cherki, il n'ait pas forcément envie de défoncer pour son président, sachant qu'il y aura forcément des offres qui vont être sur la table, qu'à mon avis, s'il y a une bonne offre, il va partir. C'est ça le problème aussi des clubs tremplin, et malheureusement, c'est un peu ce qui est devenu Lyon ces dernières années. Après, le top 3, je ne suis pas trop d'accord. Pour moi, Monaco, Marseille et Lille, ça reste quand même au-dessus. Mais déjà, ils vont se bagarrer pour la 4e place. Et finalement, c'est ça qui va être intéressant. C'est les... Parce que Paris, je pense que va terminer largement leader. Ce qui va être intéressant, c'est la 2e, 3e et 4e place. Et c'est là que ça va se bagarrer. Donc entre, comme tu l'as dit, Monaco, Lille, Nice et Marseille. Mmh. Donc, et Lyon, là où ils ont un avantage sur Lille et Nice, c'est qu'ils ne jouent pas de Coupe d'Europe. Donc, pardon. Non, c'est Marseille qui joue pas de Coupe d'Europe. C'est là où ils ont un avantage.
Et Nice qui vont arrêter de la jouer très bientôt aussi.
Ouais, Nice qui ont déjà fini. Parce qu'il fait tourner même.
Non, mais c'est un scandale.
Voilà, tout ça pour dire qu'il y a des gros problèmes d'effectifs. Mais pour moi, en tout cas, parce que j'en vois beaucoup sur les réseaux, notamment qui tapent sur Pierre Sage. Mais pour moi, Pierre Sage, c'est loin d'être le principal fautif.
Et pour revenir, enfin pour faire la transition, je trouve qu'on peut aussi le rapprocher à ce que vit Rennes. Parce que Rennes, on voit des joueurs qui sont des super joueurs.
Rennes, c'est encore autre chose.
Le deuxième but que prend Samba, la frappe du nouvel attaquant qui vient de recruter, j'ai oublié comment il s'appelle, mais elle est quasiment sur lui. Et en fait, il n'est pas dedans. Et donc, j'ai l'impression que pareil, le fait que Rennes, il y a un peu l'urgence avec Sampaoli qui va absolument remonter, les joueurs, ça leur met trop de pression, qu'ils n'arrivent pas à se. à s'exprimer correctement. Et là, on arrive quand même des joueurs qui sont des bons joueurs et qui sont totalement en dessous de leur niveau. Rennes ne doit jamais être 16e, ils sont
14e, je crois. 14e. Ah non, 16e.
Non, je crois que c'est 16e, là, cette journée. Ils doivent jamais être barragistes, tu vois, avec leur effectif. C'est juste impensable. Pour moi, Rennes, ça reste une des bonnes équipes de ce championnat. Et voilà, on voit que l'instabilité d'un club, ça peut quand même toucher les joueurs. Et moi, je mets en parallèle ce que vivent les Lyonnais à une moindre échelle avec ce que sont en train de vivre les Rennais qui enchaînent les mauvais résultats. Alors que tu vois, enfin, dire Seko Fofana sur le premier but, il fait une jolie louche, etc. Il n'est pas encore resplendissant comme il l'a été à Lens.
Forcément.
Mais voilà, il arrive de 1 an et demi d'Arabie Saoudite, voilà. C'est compliqué. Mais globalement, l'effectif de Rennes est quand même pas mauvais. Et je trouve que c'est étonnant. Monaco, c'était une grosse marche. Mais voilà, c'est étonnant quand même ces mauvais résultats qui s'enchaînent. Et je pense que l'instabilité du club est une des raisons.
Merci Lucas. On va bien évidemment continuer avec le Paris Saint-Germain qui ont buté à domicile face à Reims. Ça vous surprend? Vous avez quelque chose à dire, Alexandre?
Ouais, la première mi-temps, elle était quand même convaincante, moi je trouve, même s'il manquait le but. Mais j'ai bien aimé la proposition de Luis Enrique au départ sur la composition, parce que c'était une compo qui était vraiment offensive, on va pas se mentir, qui était très très offensive. Et j'ai trouvé ça bien parce que on se dit, bon, avec tout le respect pour Reims, encore une fois, on se dit que c'est Reims, t'es au Parc des Princes, tu sors d'un match contre City, tu veux faire reposer certains joueurs. Et je trouvais ça très bien de prôner un football offensif. Et c'est pour ça que, même s'il y avait des automatismes, il n'y avait pas d'automatisme forcément, puisque c'était des joueurs qui n'avaient pas tous l'habitude de jouer ensemble, j'ai quand même trouvé ça bien qu'ils proposent une composition offensive. Première mi-temps intéressante, et deuxième mi-temps, Reims est bien revenu des vestiaires, ils ont commencé un peu à stagner Paris, et ça a été un peu Dembélé qui a été un petit peu le seul dynamiteur, on va dire.
Et Dembélé qui est encore buteur, hein, qui voilà, enchaîne, hein, son cinquième
buteur,
match.
En plus le but est vraiment pas mal.
C'est Kvaratskhelia qui fait un truc super.
Kvaratskhelia, et pour un petit mot sur Kvaratskhelia, parce que c'est le problème des réseaux, bon, je sais que c'est... Faut pas se fier au réseau, mais il y en a déjà qui sont là, qui remettent en question Kvaratskhelia et tout. Mais ça n'y a même pas de débat. Kvaratskhelia, il va forcément apporter une plus-value à Paris, c'est évident. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup.
Je crois que c'est pas ça le débat. Est-ce que c'est le joueur dont Paris avait besoin? Est-ce qu'il avait plus besoin d'un neuf ou d'un autre une position? Est-ce que maintenant Barcola revient?
C'est un truc qui me dérange parce que
un vrai faux neuf.
Non, mais moi c'est un truc qui me dérange parce que
c'est qui un vrai faux neuf?
C'est Nkunku par exemple.
Non. Mais moi, ce qui me dérange, en fait, c'est que les gens oublient qu'il y a une réalité du marché et que c'est pas si évident d'aller chercher un œuf de classe mondiale actuellement, comme un gardien de classe mondiale actuellement.
Il y avait de la place.
Ah oui, non, mais là, je suis d'accord avec toi. Mais bon, après, ça, c'est autre chose. C'est Luis Campos, c'est Luis Enrique. Mais là, actuellement, Kvaratskhelia, il y avait une opportunité. Ils l'ont saisi. Je trouve ça bien parce qu'en plus, à ce moment précis, Barcola était un peu moins bon. Ils l'ont pris, moi je trouve ça très bien. Ça peut instaurer de la concurrence, un turnover. Et Kvaratskhelia, c'est quand même un joueur qui, selon moi, est un joueur presque de classe mondiale. Je trouve ça bien. Je trouve ça bien qu'il soit à Paris. Pour moi, c'est très bien.
On va pas se plaindre de Kvaratskhelia. C'est sûr qu'il y a des questions par rapport aux priorités du recrutement, mais je pense que personne n'est déçu. Après, pour le match à Reims, je rejoins ce que tu as dit, Alexandre. J'étais un peu déçu. Moi, la composition, je l'ai aimé aussi, même si moi, Zaïre Emery, arrière droit, ça commence à... Je pense qu'on oublie qu'il a 18 ans et qu'on ne lui rend pas service en faisant ça. Mais
il ne joue pas que arrière droit.
Il joue arrière droit. Après,
il était au milieu de terrain,
oui,
des fois.
Il est au milieu de terrain parce qu'il comment dire...
Il dézone.
Il dézone, exactement. Ça joue. Ouais, mais je veux dire, le fait qu'en phase défensive, il soit arrière droit et tout, pour ce qui s'exprime, je trouve que c'est pas un cadeau qui lui est fait. Et je regrette un petit peu les deux occasions manquées en première mi-temps de Gonçalo Ramos. Pour moi, notamment celle où je crois que c'est Dembélé qui arrive de la droite et qui lui remet, ou Désiré Doué. Et il frappe. En fait, un peu le but que Dembélé a mis en Ligue des Champions, le premier contre le but du 2-1, mais de l'autre côté.
Oui.
Cette fois, il ne le met pas. Et après, il y a un autre face-à-face qui joue mal aussi. Donc voilà, c'est un peu dommage que. Déjà qu'il aime pas les neufs, on le dit, Luis Enrique, que Ramos il met pas les grosses occasions.
Ça
qu'il
rend
a...
pas service, hein. ça lui donne du crédit, ouais. À Luis Enrique. Hein.
Pourtant, après Ramos il en met des buts. Hein. Je veux dire, depuis qu'il est revenu, je crois que c'est 7 buts en étant un peu titulaire, un peu remplaçant. On voit que le mec s'est marqué, mais c'est vrai qu'il est pas encore assez tueur. Et voilà, la deuxième mi-temps de Paris qui retombe bien dans ses travers. Après, on sait que là c'est particulier, c'est vraiment entre deux matchs de Ligue des Champions. Donc je suis pas sûr qu'ils avaient vraiment la tête à jouer ce match contre Reims. Mais il y a quand même. Moi je trouve que Paris n'est pas complètement guéri et je les ai trouvés assez poussifs ce week-end. Et voilà, j'espère que ils garderont leur bonne dynamique qu'on a vu en milieu de semaine.
Merci Lucas pour tout ça. On va se faire une petite virgule et on va revenir sur les résultats qu'on a eu, les phases de poule pour la CAN qui viennent de tomber. Et on va revenir là-dessus très rapidement. juste après la petite pause. De retour, bien évidemment, on va vous dire le tirage au sort. On ne sait pas si vous l'avez suivi, mais on va vous le donner en direct. Hein. Le groupe A avec l'équipe qui vont accueillir ce tournoi, le Maroc, avec en chapeau 2 le Mali, la Zambie et le Comore pour le groupe A.
Oh ouais, le groupe.
Ouais, le groupe B, on aura l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Angola et le Zimbabwe. Pour le groupe C, on aura le Nigeria, la Tunisie, l'Ouganda et la Tanzanie. Pour le groupe D, on aura le Sénégal, le Congo, le Bénin et le Botswana. Et pour le groupe E, on aura l'Algérie, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et le Soudan. Pour le groupe F, dernier groupe, on aura la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon et la Mozambique. Voilà pour les tirages au sort. Quelles sont vos premières impressions pour
classico,
ce...
Le classico, Côte d'Ivoire, Cameroun, j'attends ça avec impatience.
Ça va être la folie. Il n'y a pas de groupe de la mort, ça va, c'est assez bien réparti. Ça...
Moi, quand même, Côte d'Ivoire, Gabon aussi.
Cameroun, ouais, parce qu'il y a un outsider, Cameroun, le Gabon. La Mozambique aussi, un peu.
Mais comme les troisièmes sont qualifiés, maintenant, il n'y a pas, tu vois, un groupe.
Ah, c'est les meilleurs troisièmes.
Le groupe de l'Afrique du Sud.
Il y a tellement de meilleurs troisièmes que.
Oui, c'est ça que c'est.
Bon, le premier groupe, le groupe A, vraiment, je vois que là, c'est un groupe où tout est jouable, en fait. Parce que le Mali, c'est une très belle génération montante.
Ouais, c'est vrai.
On voit que c'est la Côte d'Ivoire qui était vraiment l'espoir de gagner le titre. Sinon, ils étaient vraiment, ils faisaient partie des favoris. Hein. Ils faisaient partie de l'une des meilleures équipes en termes de jeu, en fait. En termes de jeu, en termes de qualité, d'individualité.
À la dernière CAN, tu parles ?
Oui, ah, bien sûr.
Parce que le retournement de situation de la Côte d'Ivoire contre le Mali, ça n'a pas changé.
Les 75 premières minutes du Mali, elles sont vraiment de haut niveau.
Hein. Ouais. Et leur but est magnifique, en plus.
Ouais. Et en plus, ils avaient vraiment une tactique. J'ai pas compris pourquoi ils ont changé l'entraîneur, parce qu'en fait, ici en Afrique, on est un peu dans, en fait, on veut des résultats immédiats. Non, c'est pas comme ça, il faut laisser le temps.
Ah oui,
il faut que la mayonnaise prenne et tout ça.
Eric
Sekouchel, voilà, parce que lui, vraiment, c'était un fin tacticien. Mais il a beaucoup gêné les équipes.
Qui est d'ailleurs maintenant le coach des All-Stars Nigeria.
Bon, ouais, le groupe du Nigeria, c'est pas où ça va. Il y a le Nigeria, la Tunisie, l'Ouganda. Mais comme désormais, il n'y a plus de petite équipe, on l'a vu aussi avec la Guinée équatoriale. Voilà, qui a humilié la Côte d'Ivoire 4-0 à domicile. On a vu aussi des équipes vraiment, mais en fait, dans cette compétition, généralement, on a des équipes de premier tour, c'est-à-dire des équipes qui font des sacrés premiers tours et qui n'arrivent
le
pas,
Cap-Vert.
Qui n'arrivent pas à suivre aussi cette lancée. On a des équipes de phase d'élimination directe, c'est-à-dire des équipes, le plus souvent à la CAN. C'est pas les meilleures équipes au premier tour qui la gagnent, en fait. C'est des équipes qui sont importantes dans les phases d'élimination directe. C'est qui n'ont pas laissé trop d'efforts. Voilà, c'est qu'on récupérait, qu'on puisse gérer vraiment le premier tour et qui arrivait vraiment à être un peu transcendé comme la Côte d'Ivoire, voilà, avoir un peu un rythme des situations qui finissent.
Merci, Cheikh Kenza. Philippe Carnu qui nous a rejoint. Comment ça va, Philippe ?
Ça va, super. Voilà. J'ai été ramené mon invité, donc c'est bon.
Ça va. Voilà. Tu as pu suivre un peu les résultats le tirage au sort qui vient.
Ah, bah non, j'avoue, je découvre la CAN. J'ai entendu en cours de route.
T'as entendu en cours de route. Il y a des équipes qui ne sont pas qualifiées, hein, malheureusement, qui vont regarder la CAN de chez eux. Je pense notamment au Black Star, le Ghana, la Guinée. Le Cap-Vert aussi, hein, la Mauritanie, le Togo, la Gambie, quelques équipes quand même qui auraient pu figurer dans ces listes-là et qui ont fait sensation dans la dernière CAN.
Surtout le Cap-Vert quand même. Hein.
Ouais, le Cap-Vert, et qui n'ont pas réussi à se qualifier pour cette CAN. Quelles sont tes impressions, même sur ces tirages au sort
Méfiance quand même, je crois que c'est fin 2025, c'est à la fin de l'année.
2025.
Il y a tellement d'instabilité dans le football africain à travers les entraîneurs qui changent. Donc, attention, il peut y avoir des surprises. Il y a beaucoup d'instabilité. C'est vrai qu'en Afrique, on change beaucoup les entraîneurs assez rapidement. Donc, il peut y avoir quelques surprises et des équipes peut-être qu'on n'attend pas. Voilà.
Merci Philippe. Ouais. Lucas ?
Moi, je retiens quand même le groupe assez à la portée du Maroc, qui est quand même et devient de plus en plus l'épouvantail, je pense, du football africain avec la génération qu'ils ont. Et la demi-finale de Coupe du Monde qui leur a donné un peu du crédit. Donc j'attends de pied ferme le Maroc sur son territoire. Et après, à voir si les outsiders, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Sénégal et le Nigeria vont réussir à faire un gros tournoi. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours des surprises à la CAN. Là, j'ai l'impression qu'il y a toujours des surprises au premier tour. Mais quand même, qu'on arrive là, il y a des, c'est quand même des grosses équipes qui étaient à la fin sur la dernière CAN, et je pense qu'on peut revoir un scénario similaire.
Ouais. Surtout que le Maroc va être chez lui. Hein.
Là, c'est ouais, ça,
en
c'est
plus.
Ça,
hein.
Ouais, là, oui, oui, le 12e homme, ah, parce ouais. que généralement, les pays maghrébins, la CAN, ils la gagnent chez eux. Hein.
La Tunisie, la,
oui,
la,
la, oui, l'Algérie, l'Algérie la gagne en Égypte. Soit c'est un maghrébin qui vient la chercher, l'Égypte la gagne tout le temps chez elle. Donc voilà, c'est un peu en fait. Mais là, vraiment, là, je vois qu'il y a des équipes vraiment qui peuvent sortir du lot, parce que le Sénégal. Il y a des nouvelles générations, la nouvelle génération qui
c'est
vient
une
d'arriver.
Bonne nouvelle génération.
Oui, avec les Habib Diarra, il ouais. y en a pas mal et tout ça. Ouais. Donc il y a beaucoup de. Il y a du sang frais.
L'Égypte même, hein. L'Égypte avec ouais, Marmouche.
Elle est toujours constante, l'Égypte. Et, hein. ouais, toujours Marmouche, régulière sur la CAN. Hein.
Oui, ouais. mais qui ont perdu en quart de finale ouais. dernièrement ou huitième. Ouais, ouais. Huitième mais... ou quart de finale.
Je sais plus.
Je quart, sais plus. Je crois.
Quart. Non, est-ce qu'ils se sont qualifiés même?
L'Égypte, j'ai aucun souvenir de l'Égypte à la dernière CAN. C'est pas une équipe qui
Il me semble pas qu'ils se sont qualifiés même. En phase de poule, ah bah je sais plus. Mais en tout cas, ils ne sont pas allés très loin. En tout cas, 8e ouais, ouais, ouais. max, ouais. ils sont sortis, il me semble, avec le 2-2 face à la Mozambique, notamment, je repense.
Le Ghana ?
Non, l'Égypte. Non, l'Égypte.
Ah, l'Égypte. Oui. L'Égypte. Ouais. Et là, mais bon, là, avec un Marmouche en forme et un Mohamed Salah en forme, attention à cette équipe d'Égypte qui vont arriver en grande pompe. Et,
enfin, voilà. c'est dans un an quand même. Hein.
Oui, oui, c'est à la, donc, oui, c'est à la fin bon, de l'année. Ouais, donc, ça arrive, on espère.
Ouais, et puis,
pas les blessés.
Là, il y aura des blessures et
ouais,
tout ça.
Ça change tellement quand même.
Ça change. Mais pour l'instant, en tout cas, voilà. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est ça. Mais on reviendra bien évidemment sur ces tirages au sort et sur cette CAN les prochaines semaines. Dès qu'il y aura du
Maroc.
On espère.
Ouais, on espère que la radio va
quand même, ouais, le Paris FM va nous envoyer comme l'année dernière, comme il y a deux ans en Côte d'Ivoire et là pour cette fois-ci au Maroc. On espère en tout cas. Et du coup, bah, on va se faire une petite virgule avant d'enchaîner hein, avec la Ligue des Champions, bien évidemment, la Ligue des Champions, ce qu'on attend. Et on va rentrer dans le vif du sujet. À tout de suite.
Il est sur la sellette.
La Ligue des Champions qui revient et bien évidemment le Paris Saint-Germain qui s'impose à domicile face à Manchester City lors d'un match épique et d'un retournement de situation inédit, jamais vécu en tout cas pour ces joueurs parisiens et pour les supporters parisiens vraiment qui ont poussé et qui ont cru même à 2-0. Ils continuaient de pousser et franchement pour une fois ça a réussi. Lucas, tu vas être le premier interrogé. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que il ne faut pas minimiser cette prestation. Hein. Je pense que les gens autour disent oui, mais c'est un Manchester City malade. Ils ont mis 6-0 à Ipswich la semaine d'avant. On disait qu'ils revenaient très bien et là ils viennent de battre Chelsea 3-1. On a vu ce week-end en première ligue. On y reviendra juste après. Qu'est-ce que t'en as pensé toi de ce match?
Bah comme tu l'as dit, c'est un événement. C'est quand même très très rare que Paris retourne une situation comme ça dans un même match. On l'a vu des fois sur aller-retour, on perd à l'aller, on gagne au retour. Mais là, dans un même match, être mené 2-0, revenir au score et les battre, c'est très très rare pour le PSG, d'autant plus en Ligue des Champions. Et moi, ce qui m'a plu, c'est vraiment l'attitude des joueurs en deuxième mi-temps. Parce que déjà, il y a quand même, avec les 1000 ralentis, parce que maintenant, les hors-jeux sont au centimètre. Donc on a vu que vraisemblablement, en fait, il n'y a pas hors-jeu sur le premier but. Et Paris ne s'est quand même pas laissé démonter, même à 2-0. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est voilà, quand ils reviennent à 2-2, déjà, il faut revenir à 2-2. J'ai beaucoup aimé le Barcola qui se déchaîne un petit peu, Doué qui prend des initiatives. Voilà. Et en fait, à 2-2, on entend souvent Paris à des situations. Comme on avait dit ici, par exemple, après le match du Bayern, Paris n'y arrive pas à des situations. Et là, en vrai, entre les 10 minutes qui suivent le 2-2, il y a plus de situations que dans pas mal de matchs en fait, de Paris depuis le début avec des champions. Ils se sont vraiment lâchés. Ils ont vraiment imposé un rythme. Et en fait, j'ai revu un peu... ce que Luis Enrique avait essayé de mettre en place dans ses tout premiers matchs, où on avait vu notamment Ugarte à l'époque qui avait fait voilà qui régnait sur le milieu de terrain avec des récupérations très très hautes, et ça c'est un truc qu'on perdait un petit peu au PSG. Et là sur cette deuxième mi-temps notamment, on a vu des récupérations hautes, un City qui était étouffé et effectivement des joueurs de Guardiola qui n'arrivaient pas à ressortir le ballon et qui ont été méconnaissables. On voit Bernardo Silva qui regarde Dembélé comme ça sur son petit pont. Enfin, c'est assez impressionnant. C'est rare de voir du football d'aussi haut niveau sur voilà sur une enfin tout un match en fait, parce que la première mi-temps était très bonne aussi. Enfin, ils n'arrivent pas vraiment à faire les différences, mais il y avait quand même une belle première mi-temps aussi. J'ai envie de le souligner. Et après, ouais, une fois qu'il y a 2-0, plus personne n'y croit. Mais eux, non, ils ont fait le travail et chapeau à tous les joueurs.
Merci Lucas. Cheikh Kenza, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match?
Ouais, vraiment, on a vu un pari vraiment. Voilà, avec le mental en fait, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire, même quand ils étaient en deçà, ils n'étaient pas bien, On a vu qu'il y avait vraiment une cohésion d'équipe et tout ça, ça se parlait et tout. On a vu qu'après, voilà, il y a eu des cas qui ont pris vraiment le relais. On a vu Ousmane Dembélé vraiment voilà, avec ses fulgurances et tout ça. Voilà, on a vu Anguilla Doué avec sa fougue et tout ça. Désiré Doué. Désiré, vraiment, il est très beau, il est très bon ce petit. Vraiment, il est très bon. Même là, le week-end, vraiment, j'ai beaucoup aimé sa prestation. Parce qu'il apporte un plus et tout ça. On a vu aussi un Barcola. Voilà, qui s'est remis un peu en question parce que ces derniers matchs montrent que vraiment que voilà, qu'il commence à prendre plus de l'espace et tout ça, comme on a toujours souhaité, hein, parce que Barcola il arrive vraiment pour aider, en fait, pour aider parce que voilà, le PSG vraiment manquait un peu de ça. Et à la fin du match, vraiment, même Guardiola il a dit vraiment Paris a été la meilleure équipe. Voilà, ils ont été la meilleure équipe dans tous les compartiments de jeu. Voilà, même jusqu'au début du match, ils n'étaient pas concentrés. Ça arrive. Je crois que ce match, vraiment, ça peut être un élément déclencheur pour la suite parce que c'est une saison régulière. Elle est encore longue. Paris a encore des chances et tout ça. Donc, ils vont aller vraiment la chercher. Pourquoi pas, cette année peut être l'année du sacre parce qu'on a vu des équipes. Non, pourquoi pas, en fait. Il ne faut pas enterrer les espoirs. Non, il ne faut pas enterrer les espoirs parce que la Côte d'Ivoire, après, ça n'a rien à voir. La Côte d'Ivoire, après le 4-0, on les avait enterrés, mais après, ils sont revenus.
Moi, le premier, c'est vrai.
Il ne faut pas enterrer les espoirs, on ne sait jamais. Donc, au football, tout est possible. Si vraiment, voilà, c'est long, voilà, c'est une saison régulière. Par contre, là, il y a d'autres qui voient le Barça champion, mais moi, je ne le vois pas. Donc, c'est comme ça, c'est le football. Moi, je n'étais pas à Paris. En tout cas, je me dis qu'ils ont des chances. À eux de les saisir, c'est au football vraiment.
Merci, Cheikh Kenza. Alexandre.
Moi, franchement, j'ai été très surpris du match de Paris. J'ai beaucoup apprécié ce match et surtout la réaction et la résilience dont Paris a fait preuve. Franchement, quand il y a eu les deux buts de City, je me suis dit là, c'est terminé. Franchement, je me suis dit c'est terminé. J'ai un peu rigolé, je l'avoue, mais j'ai dit que c'était terminé, franchement. Et là, tu vois la réaction. Et en plus, même, tu vois. Parce que le parc, en plus, dans ce genre de soir, il y a vraiment une grosse ambiance et tout. Et tu vois, même la réaction, comment Dembélé prend la balle, etc. Enfin, tu sens qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et après, il y a eu vraiment une très, très bonne réaction. Et au final, j'ai envie de dire, enfin, oui, je suis surpris que Paris ait renversé City de cette manière, etc. C'était pas un gros City, mais bon, ça, on en parlera peut-être après. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas surpris par la manière dont Paris a joué, en fait, parce que moi, ça me surprend pas forcément. À partir du moment où les occasions sont marquées, en fait, Paris assoit sa supériorité. Ils ont eu la possession, ils ont eu les plus grosses occasions. Donc franchement, et puis un Dembélé, franchement, qui en ce moment a des jambes de feu. Donc, et je suis d'accord avec Cheikh Kenza.
Qui est efficace, surtout.
Je suis d'accord avec Cheikh Kenza. Désiré Doué commence vraiment à prendre du galon, ça commence vraiment à être un très bon joueur parce que balle au pied, il est vraiment très sûr.
Ah oui.
Et pour finir, la défense en général, Donnarumma n'a pas fait de cagade, Dieu merci j'ai envie de dire, mais les quatre de derrière, franchement je trouve que c'est très solide. Pacho, Marquinhos, ça commence vraiment à être très complémentaire. Les deux,
c'est quelque chose.
Et Nuno Mendes revient très très bien. Moi, je trouve qu'il revient bien.
Sur le premier but,
ça fait 2-3 matchs qu'il revient bien.
Oui, il fait une petite erreur, mais
il est trop dans l'ensemble. Mais globalement, effectivement, il fait un bon match.
Même offensivement, il apporte énormément.
Oui, tout le temps.
Avec les dédoublements et tout ça. Il a pas de surnombre, en fait. C'est-à-dire qu'en phase offensive, les ailiers, c'est ce qu'on demande maintenant. On veut des ailiers, des latéraux modernes.
Des contre-ailiers. Je trouve que ses centres sont bons. Et Hakimi, voilà, toujours peut-être le meilleur joueur parisien depuis le début de la saison. Et là, je trouve que voilà,
il y avait deux Portugais au milieu de terrain là pour ce match qui ont fait des merveilles. Ouais. Le plus jeune encore plus, João Neves, c'est Vitinha qui dans l'orientation du jeu, il m'a émerveillé à plusieurs moments. Donc ouais, faut les nommer aussi.
Et on peut parler de City maintenant ou
juste oui, en Ligue des Champions, bien évidemment.
Très rapidement, le match de Kevin De Bruyne, c'est une honte. C'est vraiment une honte dans l'attitude, dans tout. Et je sais pas si, parce que moi j'observe beaucoup les comportements des joueurs, et je sais pas si vous avez observé, à chaque fois que c'est Matheus Nunes qui touchait le ballon, mais Kevin De Bruyne il soufflait déjà même avant que Matheus Nunes il ait reçu le ballon. Et ça, ça prouve qu'il y a quand même, c'est là ce qu'on disait tout à l'heure sur Lyon, que le contexte d'un club il est quand même important. Et c'est là que, d'une équipe, c'est quand même important ce qui se passe dans le vestiaire. Parce que là tu vois que les joueurs ils ont très peu confiance en eux en fait. Ils ont très peu confiance en eux et ça c'est vraiment ressenti.
Matheus Nunes, le pauvre. Hein. Kyle Walker est parti au Milan AC. Il va se retrouver quoi à jouer arrière droit, franchement.
Ouais, mais franchement, même en termes de qualité, les deux, Savinho et Matheus Nunes, mais t'as vraiment baissé, mais drastiquement, je trouve.
Bah, surtout bon. Que Kevin De Bruyne, quand il n'a plus envie, on le voit clairement qu'il n'a plus envie.
Et
c'est ça. Mais, et là même, bah, ça peut se comprendre.
Faut qu'il se barre.
Oui, on comprend. Mais c'est, quand il prend Marmouche, c'est un peu ça.
Oui,
il prend Marmouche, c'est un peu ça.
On en parlera tout à l'heure, mais
oui,
Marmouche,
on en
très
parlera juste après. Mais quand il prend Marmouche, c'est Kevin De Bruyne, ça y est, c'est un message. Du coup, quand Kevin De Bruyne joue, se dit Marmouche, il va arriver et il va sûrement jouer à ma place parce que. Parce qu'il cède sa place. Parce qu'un Kevin De Bruyne en forme, il n'y a personne qui prend sa place. Personne ne prend sa place et il décide des matchs. On le voit.
Mais là, il l'a mis trop haut. Il l'a mis en 10. Il avait moins de il n'avait pas le jeu devant lui. Moi, je trouve qu'il est meilleur quand il est en 8. Là, c'était vraiment. Franchement, le match de Kevin De Bruyne, c'était compliqué. Bernardo Silva, oui, c'est possible qu'il se dise ça. Bernardo Silva, il sort un petit peu du lot, je trouve, au milieu de terrain. Mais il y avait qui? C'était Kovacic, je crois qu'il avait mis aussi.
Exactement, ouais. Ils ont souffert.
Non, mais même Bernardo Silva, il a souffert.
Oui, un petit peu.
Il a souffert.
Ouais.
Ça reste un bon joueur, mais il a souffert tout le match. Bernardo Silva, il n'a pas fait un meilleur match que Kevin De Bruyne.
En tout cas, dans l'attitude, dans l'investissement, si, moi, je trouve.
Non, je pense pas.
En tout cas, la bataille du milieu de terrain était largement remportée par Paris, en tout cas.
Oui, mais c'est ça, mais je suis d'accord que dans l'investissement, Bernardo Silva, il a mieux assumé son rôle que Kevin De Bruyne. Mais quand Paris a commencé à mettre le pied sur le ballon, ils les ont asphyxiés. Les deux, quoi.
Et dernier mot, João Neves, franchement, quel joueur. Ouais. Quel joueur, quel. Enfin, vraiment prometteur, très prometteur pour la suite, franchement.
On espère. Philippe, pour finir.
Eh bien, moi, j'ai envie de dire que c'est peut-être un des meilleurs matchs du Paris Saint-Germain de l'histoire QSI. Tout du moins sur les. Si, sur les phases de poule. Sur les phases de poule. Je crois qu'avec le match contre le Barça.
Justement, sur les phases de poule.
Ah si, je pense que c'est un des meilleurs matchs du PSG.
T'as battu le Real, le Barça.
T'as battu le Bayern, Liverpool.
Ah non, je dis que c'est un des meilleurs matchs.
Oui, mais en fait, moi je comprends ce que Philippe dit. En termes de jeu, en termes de scénario, en termes de jeu,
la mentale, on peut effectivement. Il y a eu le match contre le Barça que Paris avait gagné 4-0, le match aller. Ça, c'était pas en phase de poule, mais c'était un match référence. Et celui-là fait partie des meilleurs matchs de phase de poule. Ils avaient battu le Bayern, ils avaient battu
le Real,
qui n'était pas, à l'époque, qui n'était pas mieux que Manchester. Hein. Quand Paris bat le Real en phase de poule, c'était pas le grand Real. Quand Paris bat le Bayern en phase de poule, c'était pas le grand Bayern.
Oui,
hein, faut s'en rappeler.
Mais ça reste
hein.
quand même
c'était
des
pas non plus. Mais peu importe, ça fait partie de ces grands matchs. Maintenant, méfiance, effectivement, le Paris Saint-Germain, sur les matchs à élimination directe, match aller-retour, on sait que. Un huitième, un quart, il peut toujours y avoir un match que Paris rate, donc il ne faut pas s'emballer. Mais c'est vrai que ce match-là, de par l'implication, de par la réaction, et surtout l'efficacité qui a été retrouvée. Parce que c'était un peu ce qui manquait au PSG depuis le début de saison, tout du moins en Coupe d'Europe, c'était ce manque d'efficacité. Là, Paris l'a retrouvé et il l'a bien retrouvé. Donc, même
et
si
le
bon
coaching
Manchester...
aussi de Lucien Riquet.
Oui, bien sûr. Noté coaching, c'est toujours pareil. Quand non, ça passe, vrai. Quand ça réussit, on
oui,
dira
quand
qu'il
ça
est
réussit,
beau.
C'est exactement
quand ça
ça.
Réussit pas,
c'est exactement ça. Bon, parce que si ça réussit pas, on dit pourquoi il a pas mis Gonzalo Ramos en
plan.
Moi,
ça.
Dès que j'ai vu la compo, excusez-moi, mais
voilà,
j'étais à deux doigts de l'insulter. Quoi. Je vois la compo, je me dis
en faux neuf, c'est déjà arrivé. Bon, bah voilà. Donc
vous avez vu l'espace qu'il y a eu sur le quatrième but de Ramos.
Oui,
franchement.
Non, mais même Dembélé, il met le feu tout le temps, mais là il marque. Et j'allais dire que c'est un petit peu à l'image des dernières prestations du PSG quand même, qui avaient plutôt été, qui avaient réussi leur match. Ils avaient gagné contre Lyon, contre Marseille, ils sont allés gagner à Lens, ils ont battu Monaco, ils ont gagné le trophée des champions. Donc ils sont un petit peu dans la lignée.
Dans la bonne dynamique.
Oui. Voilà. Bon, il y a eu le petit 1-1 contre Reims, mais enfin c'est qu'un petit détail. Ouais. Donc voilà. Mais non, c'est un de leurs meilleurs matchs de Ligue des Champions de l'ère QSI. Maintenant la suite, on verra. Faut pas s'emballer quand même.
Même Fabien Ruiz a été bon, donc c'est vrai que c'est une soirée où tout réussit.
Mais c'est vrai que
plus
bon,
ou moins.
Neves,
il était plus bon quand il est sorti.
Fabien Ruiz, il est toujours bon avec l'équipe d'Espagne, mais avec le PSG, je comprends pas.
Non. Merci en tout cas, Philippe. On va enchaîner, hein, bien évidemment, avec Lille qui n'ont pas réalisé l'exploit. Hein. Lille qui sont allés à Anfield et qui sont inclinés 2-1, mais de façon très honorable avec un carton rouge en deuxième mi-temps.
Ça aurait pu être pire quand même.
Oui, beaucoup d'occasions du côté des Reds.
Plus largement quand
mais,
même.
Voilà. Et avec une équipe un peu remaniée, on va dire.
Oui.
Mais qu'est-ce que tu en as pensé?
Ça aurait fait 3-1, 4-1, ça n'aurait pas été ça aurait pas été un vol vu les occasions de Liverpool. Ceci dit, maintenant, bon, on connaît Liverpool actuellement. Que Lille soit battue, bon, c'est pas une surprise, quoi. Voilà. Mais je dirais même que le 2-1, ils s'en tirent quand même assez bien sur le match, quand même. Hein. Voilà. Merci. Maintenant, Lille, ils ont rempli leur contrat, c'est bien, ils vont jouer les barrages, donc c'est impeccable.
Merci, Philippe. Lucas ?
Moi, je ne suis pas totalement d'accord. Parce que je trouve que le deuxième but, déjà, il est très malchanceux avec une balle vraiment contrée. En fait, l'expulsion, elle change le match. Moi, franchement, même à 10 contre 11, à 1, quand Jonathan David y marque, pour moi, Lille a été très, très courageux. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Après, Liverpool, c'est très fort. Il n'y a pas de souci. Ils ont eu plein de situations, plus que les occasions très, très nettes. Mais moi, je trouve que Lille n'a pas démérité. Et,
il n'a pas démérité, mais on refait 3-1.
Oui, c'est vrai. Mais en fin de match,
surtout un très bon gardien libre en plus.
Effectivement, ouais. Lucas Chevalier, vraiment un gardien très très sûr. Ouais. Mais je pense qu'à 11 contre 11, Lille les aurait pu créer un petit exploit. On voit que Liverpool, c'est pas le match où ils étaient le plus motivés. Maintenant qu'ils sont premiers et quasiment assurés d'être dans le top 4.
Ils veulent finir premier, je pense.
Ils ont assuré leur victoire et on voit la différence entre les bonnes équipes et les top teams, quoi. Effectivement.
Merci Lucas. Alexandre ?
Ouais, franchement, pas trop de surprise. Je crois que c'était toi qui croyais en l'exploit de Lille, non ?
Ouais, j'ai dit un petit nul, pourquoi pas ?
Ouais.
C'était pas loin.
Loin. Bah, pas trop de surprise en vérité. Franchement, en fait, dans le contenu du match, on peut se dire que oui, Lille méritait mieux, etc. Mais pour moi, en fait, ça, c'est le match, c'est Liverpool qui le décide, en fait, pour moi. Déjà, on voit que l'équipe, elle est remaniée. Et je pense sincèrement que si Liverpool avait décidé d'accélérer, ils auraient accéléré. C'est une équipe qui sait parfaitement quoi faire, quand faire, où le faire sur le terrain. Enfin, ce que je veux dire, c'est pour moi, là, il y a certes des situations, des faits de jeu qui tournent en faveur de Liverpool justement et contre Lille. Mais pour moi, on sait que les Anglais, ils prennent tout le temps la légère quand ils jouent contre les clubs français, sauf quand c'est Paris. Donc franchement, c'est une victoire totalement logique. Ça aurait pu être bien plus si Liverpool s'était concentré. Par contre, Lucas Chevalier, franchement, il va partir, je pense. Hein. Là, ça va être difficile de le garder.
Il le dit lui-même, hein, voilà. Il est là pour jouer contre les meilleures équipes et pour le top niveau. Lui, c'est ce qu'il vise. Et avec Lille, c'est difficile de continuer à jouer des matchs de top niveau en sachant que là, c'est même pas sûr qu'il se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions. Chakenza.
Ouais, vraiment, Liverpool a mérité. Vraiment, Liverpool a mérité. Ils ont mérité, ils ont été meilleurs. Mais Lille, vraiment, il s'en sort. Je reviens. Je le rejoins parce que Lille s'en sort vraiment. Miraculeusement, c'est le 2-1 parce que là, ce qu'il est en train de dire, Maxence, là, tu t'imagines que lui. Il n'y a pas Maxence. Lucas, tu t'imagines que vraiment, avec toutes les occasions loupées de Liverpool, ça aurait pu même 4-5 parce que s'ils avaient le réalisme qu'ils avaient autrefois. Ben... Et puis Liverpool, en ce moment, c'est la meilleure équipe d'Europe. Il n'y a pas photo entre Liverpool et Lille et tout ça. Même si Lille nous a sorti quelques performances incroyables contre le Real de Madrid, tout ça, contre d'autres équipes, l'Atlético, mais là, c'était Liverpool. C'est l'ogre en ce moment d'Europe et c'est l'ogre de la Ligue des Champions. Donc, il n'y a pas moyen que... Le 2-1, pour moi, c'est un bon résultat. Après, le contraire en plus aussi, hein, du côté de Lille, voilà. Et sans gêne, il peut avancer tout à bout. Mais Liverpool, vraiment, c'est costaud. C'est des prétendants au titre, sérieusement. Voilà, pour moi, c'est la meilleure équipe d'Europe en ce moment.
Merci. Actuellement, oui. Chakenza, oui, je pense qu'actuellement, on peut...
La deuxième.
Ah oui,
non,
après...
Avec qui ?
101 buts en 32 matchs.
Mais ça ne veut rien dire, 101 buts.
Le Barça, ça ne veut rien dire.
Ça
ne
veut rien dire. Ah, ok.
Non, ça ne veut rien dire, pardon.
J'avoue, ça ne veut rien dire.
Non, mais ça ne veut rien dire.
5 buts contre le Real.
Championnat anglais.
5 buts contre le Real, mais ils sont 3e de Liga.
9 buts en 2 matchs.
On va y revenir, Alexandre. Ne sois pas pressé.
On va enchaîner directement. 101 buts en 32 matchs, ça ne veut rien dire.
Non, mais attends, on va enchaîner avec le Barça, bien évidemment, qui sont imposés à Benfica dans le dur. Avec un scénario incroyable, avec des erreurs aussi, des boulettes de gardiens de part et d'autre. Et bien évidemment, le Barça qui s'impose à la toute fin de match, hein, 5-4. Vas-y Alexandre, fais-toi plaisir.
Non, mais en fait, j'ai entendu beaucoup de gens dire que c'était le match de la saison et tout, mais en vrai, pas du tout. Honnêtement, il y a eu vraiment des erreurs individuelles énormes qui ont facilité le scénario fou du match. À l'image donc justement de la sortie de Chesney, qui est pour moi totalement fautif sur le but. Du coup, sur le but. Et puis la sortie sur le pénalty, il y a pénalty. Pénalty un petit peu généreux, mais on va dire qu'il y a pénalty. Et puis, l'autre gardien, comment il s'appelle déjà, le gardien de Benfica, j'ai oublié, c'était... fait une erreur aussi qui est clownesque sur le but de Rafinha, mais
pas le dernier,
c'est pour ça qu'en fait pour moi c'est un, en fait c'est... non le but la tête premier, ouais, oui ça. Le premier de Rafinha,
Anatoly Trubin,
c'est ouais voilà Trubin, mais en fait ce match là il est pour moi il est inutile à analyser en fait parce que c'est un match qui c'est un peu un ovni en fait c'est un ovni, c'est un match incroyable comme le foot peut nous donner.
Bah, tant mieux pour nous.
Et
puis la faute, ça fait partie du jeu. Hein.
Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, ça fait partie du jeu. Mais je veux dire, c'était un peu un ovni pour moi ce match-là. Tu peux pas tirer vraiment des conclusions, si ce n'est que le Barça a vraiment des individualités qui marchent sur l'eau, à l'image de Rafinha. Mais franchement, le dernier but de Rafinha, c'est du très 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 très
très très très très très très très
très très
très
très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très Si c'est fait exprès,
c'est plus un dégagement, c'est plus on le voit, c'est un dégagement dernière seconde, il y a le feu.
Oui, non, moi je suis plutôt d'accord avec toi, hein, je suis d'accord avec toi, mais il y en a qui disent que c'est fait exprès, mais non, pour moi c'est un dégagement, ça tombe dans le bon espace, mais il va à 2000 à l'heure, à la 95e, il a une lucidité, il va en 4 touches de balle, il élimine crochet et frappe croisée.
Premier poteau là où c'est pas attendu.
Franchement, à ce moment-là du match, moi je trouve que vraiment c'est du très très haut niveau, à l'image de son but contre le Bayern aussi en contre. Franchement, c'est incroyable. Et pour terminer, c'est là qu'on voit en fait que le Barça a un peu évolué dans son jeu, parce que maintenant ils sont capables de marquer sur des transitions très rapides et des contres, et ça c'est une facette du jeu qui leur manquait ces dernières années. Et quand t'as des joueurs qui sont en pleine confiance, bah forcément ça fait mouche, et franchement c'était 9 buts en un match, c'est vraiment du gros plaisir, quoi.
Merci Alexandre. Lucas?
Bon, pas grand chose à ajouter sur ce match, vraiment match un peu comme il a dit hors du temps, et impressionné par le dernier but de Rafinha, comme t'as dit, un peu à l'image de ce qu'il a fait contre le Bayern. Ça commence à parler de lui pour le Ballon d'Or, ça me fait un petit peu rire. Faut pas exagérer non plus, mais ça montre qu'il fait une très très grosse. Il fait une très très,
Mbappé,
très grosse.
Philippe parle de Mbappé.
Non, mais sérieusement, Lucas, là, mais qui est meilleur que Rafinha là?
Salah par exemple, bref, il y a du monde. Bien sûr que si, bien sûr que si. Mais Rafinha fait une.
Rafinha peut pas prétendre au Ballon d'Or maintenant. C'est trop tôt en fait. C'est trop tôt pour juger.
Mais qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse de mieux là?
En tout cas, il fait une très très grosse saison. Ça fait quand même des buts de grande classe. Et je pense que
c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Voilà. C'est vraiment ça, faudra voir en fait quel trophée il va amener avec le FC Barcelone.
Suis
si demain il gagne la Ligue des
toi.
Champions et la Liga ou quoi.
Si demain il n'y a aucun titre, demain Rafinha n'est jamais dans la discussion. Mais là, à l'instant T, pour moi, Rafinha, top 3 meilleurs joueurs du monde, et il n'est pas 3ème.
Oh, voilà. Bon, c'est un peu trop parce qu'on voit notamment, parce que les Madrilènes peuvent dire que Mbappé revient à un niveau assez exceptionnel.
On peut
le
donner à Salah actuellement, à l'heure actuelle, mais on va attendre.
Il a plus de buts que Mbappé.
Non, mais
attendez, excusez-moi, pas tous en même temps, s'il vous plaît.
Mais bon, bref, pour finir sur ce match, c'était un match plaisir. Je sais pas si on va en parler, mais je tiens à souligner la belle victoire de Monaco que j'avais été le seul à pronostiquer.
Oui, oui, c'est vrai. Vas-y, alors tu peux t'exprimer dessus.
Monaco qui s'impose. Vraie belle victoire. Ouais, voilà, parce que le Barça c'était beau, mais comme tu as dit, c'est un peu match hors du temps. Par contre, Monaco, ils ont vraiment confirmé. Ils ont été surtout super solides derrière. Ils ont montré vraiment du caractère.
Monaco, deux visages, hein, en championnat et en Ligue des Champions. Hein.
Ouais, là, complètement. Et même si en fin de match, ils avaient l'air de paniquer, pour garder ce but d'avance. Et je trouve que Golovin, qui est un joueur que j'aime beaucoup par ailleurs, il commence à rater des trucs qui sont assez incroyables, mais globalement Monaco très courageux et très solidaire, donc ça fait plaisir. Ils assurent aussi quasiment leur et en fait avec 13 points, Lille et Brest, ils vont jouer le Real, ça va être compliqué, mais en fait on a au moins deux clubs qui peuvent sur un malentendu se rapprocher du top 8, donc je trouve que c'est assez fou, et voilà, j'attends de voir ce que Monaco et Lille pourront donner à la dernière journée.
Merci Lucas. Philippe, sur cette journée de Ligue des Champions direct, hein, tu peux me parler du FC Barcelone comme de Monaco.
Oui, Barcelone-Benfica, oui, on est tous d'accord avec l'analyse qu'a faite Alexandre. Maintenant, pour les clubs français, oui, c'est bien. Monaco, ça n'allait pas très bien depuis un moment. Donc, on a été, agréablement surpris par sa réaction contre Aston Villa. Lille battue, Brest, qui a rempli son contrat. Donc, on aura nos quatre clubs en barrage. Ça sera une autre compétition qui va commencer après. Mais bon, voilà.
Attention, le Paris Saint-Germain, c'est pas encore.
C'est pas fait.
Ça va le faire. Il manque un point contre Stuttgart. On les voit quand même.
Même avec une défaite, il faudrait des.
Ouais. Non. Après, c'est une autre compétition qui va commencer. Mais bon, Lille et puis Brest, ils ont rempli déjà le contrat. C'est bien. Et même Monaco. Donc Monaco, équipe effectivement qui était un petit peu en difficulté depuis quelques temps. Bon, je crois que les Monégasques ont répondu présent. Et ça, c'est important. Et puis, ils peuvent même aller chercher un huitième de finale, pourquoi pas.
Merci, Philippe. Toi, sur cette journée de Liga, Ligue des Champions, qu'est-ce que tu en as pensé?
Monaco, vraiment très belle surprise. Oui. Parce qu'avec un entrejeu vraiment voilà, qui était très coriace, Lamine Camara voilà, qui courait dans tous les sens, j'ai beaucoup aimé ce stade. Wilfried Tsengo, vraiment qui était très costaud, que ce soit défensivement, offensivement. En fait.
Quel joueur Tsengo ouais,
bah, oui, je quel crois joueur. Que lui, il ne va pas rester, Wilfried Tsengo.
Bah, il a l'air de ne pas intéresser tant de monde, moi. Déjà, je suis étonné qu'il soit resté à la fin de l'année.
Ouais, hein, moi, vraiment, je trouve que fort, c'est l'un des meilleurs en ce moment à Monaco. Voilà, et Monaco, vraiment, c'est une équipe très solide. Et Tsengo, même, il a même été félicité par le président d'Aston Villa, qui était très étonné vraiment de sa performance et tout ça. Il a été donné un défenseur et tout.
C'est parce qu'il n'a pas regardé la CAN.
Il avait
vu la CAN, comme on
disait.
Il a vu
la CAN, la performance qu'il a apporté et tout ça. Voilà.
Il est monstrueux.
Et, oui, oui, il est très fort. Oui. Après aussi, il y a le Real de Madrid, voilà, qui, voilà, même si face à Leipzig et tout ça, qui revient petit à petit. On sent que vraiment, ouais, les cadors vraiment, qu'ils endossent le relais. On avait vu une équipe du Real de Madrid qui joue avec le costume, une équipe plutôt. Avec le costume, parce qu'on a vu un Bellingham qui était rayonnant et tout ça. On a vu un Mbappé vraiment là. On a vu un Vinicius, oh là là, Vinicius qui se baladait. Donc ça promet. Je crois qu'il y a des équipes vraiment qui peuvent descendre du top 8, comme il y en a d'autres qui peuvent monter. Voilà, mais le Real de Madrid, c'est fort probable, mais eux, on les connaît.
Le Real Madrid, chez Kenza. On dit le Real Madrid. Le Real... On dit pas le Real de Madrid.
Le Real Madrid, oui, c'est fort probable.
On est obligé de bien le prononcer. Oui, oui. Real Madrid,
c'est fort probable. Madrid.
Voilà, c'est fort probable que le Real remonte au classement. Voilà, Real Madrid remonte au classement. Et après, il y a d'autres équipes voilà, qui peuvent descendre. Bah, oui, le Real peut être dans le top 8 et tout ça, parce qu'au dernier match, s'il y a des équipes qui perdent et tout.
Mais c'est encore promet. Jouable, c'est promet. Encore jouable. Oui.
Ça promet.
Et juste dommage qu'il y ait des grosses erreurs individuelles qui aient plombé Brest, parce que franchement, ils auraient pu, moi je pense, avoir au moins le nul à
Shakhtar,
à Donetsk.
C'était compliqué quand même. C'était compliqué. Franchement, Shakhtar, ils ont dominé leur sujet.
Ouais, j'étais
le premier but.
Shakhtar, ils ont dominé.
C'est tellement une succession d'erreurs que s'il n'y a pas ce pré-but, je me dis que ça peut le faire, mais bon, ils sont courageux, les Brestois.
Donetsk, c'est pas un foudre de guerre quand même.
Ouais, c'est pas un foudre
européen. Mais j'étais un petit peu déçu.
Mais ce sont des habitués de cette Ligue des Champions qui ont cette expérience.
Là, j'avoue que si j'avais fait un loto, je me serais planté. Là, je jouais le machine. Ouais, non, c'est vrai.
Voilà. Bah voilà, avec la Ligue des Champions, on va rappeler le classement de cette Ligue des Champions. Liverpool avec 7 matchs, 7 victoires avec 21 points. Barcelone, deuxième avec 18 points. Arsenal, troisième à égalité de points avec l'Inter, troisième et quatrième. Atlético de Madrid qui sont imposés aussi 2-1 avec un carton rouge, avec un doublé de Julian Alvarez. Voilà, Diego Simeone encore a fait des siennes. Et Atlético de Madrid qui sont 5e avec 15 points à égalité avec l'AC Milan. Et bien évidemment, la 7e et la 8e place qui sont occupées par l'Atalanta et Bayer Leverkusen. Et maintenant, il faudra suivre le Paris Saint-Germain qui sont 22e avec 10 points. Manchester City qui sont 25e avec 8 points. Si Manchester City ne s'impose pas, ils seront éliminés.
Ils jouent
simplement.
Bruges, hein, ça.
Oui, ils seront éliminés. Ils jouent Bruges à domicile. Ouais, mais Bruges qui sont 20e. Hein, et Bruges aussi qui ferait mieux d'assurer leur place en barrage avec un petit match nul. Pourquoi pas, c'est faisable hein, du côté de Bruges. Attention. Et bien évidemment, le Real Madrid qui sont remontés à la 12e place. L'énorme gifle reçu par le Bayern Munich par Feyenoord. 3-0. Rien ne va plus du côté des Munichois. Et bien évidemment, Dortmund aussi qui peine à mettre un pied devant l'autre. Et Dortmund qui se retrouve aussi dans la tourmente. Attention en tout cas à ces équipes-là qui vont jouer les barrages officiellement. Mais attention.
Ouais, mais attention quand même. Hein. Les barrages, comme j'ai dit, c'est notre compétition qui va commencer après. Hein.
C'est ça.
Et il y a des équipes qui sont programmées pour février-mars. Et je pense qu'à l'arrivée, dans les 8 équipes qui resteront, on verra 8 gros. Hein. Je pense que l'éthique sportive, elle sera la même.
Attention en tout cas,
bien sûr,
ouais, avec un Real Madrid qui se sont imposés aussi 5-1 hein, face à Salzbourg et bien évidemment avec un Kylian Mbappé qui est reparti. Hein. Là,
il a retrouvé la joie de jouer. Il a le sourire.
Il a le sourire.
Voilà, il a retrouvé le sourire.
Ouais, il a retrouvé le sourire. Les célébrations qui s'enchaînent.
Ah oui.
Même lui-même, il avait dit vraiment après son penalty loupé à Bilbao, il avait dit qu'il pouvait pas
toucher le fond. Ouais.
Voilà, donc, quand on touche le fond, il faut remonter en fait.
Il a joué les actes à la parole et franchement, on voit ce qu'il fait sur
le terrain. Il a ce plaisir à nouveau de jouer, il rigole, il sourit.
Ça fait très longtemps. Pour moi, ça fait vraiment. Les gens disent des fois, pour moi, plus que ça. Plus que ça pour moi. Ça fait au moins 2 ans qu'on n'a pas vu Mbappé à ce niveau-là.
Je pense aussi. On va y revenir tout de suite, juste après la pub. On va se faire une petite pub et on arrive pour débattre de la Liga et bien évidemment de Kylian Mbappé.
Hey, retrouvez Au bout du foot avec El Hadji Makalou. L'émission où on parle de foot comme entre potes. Chaque lundi en direct de 20h30 à 22h sur Mon Paris FM pour des débats passionnés, des analyses sans filtre et des moments de franche rigolade. Ici, le foot se vit et se discute avec authenticité. Rejoignez-nous pour vibrer, discuter et partager autour du ballon rond.
De retour dans les locaux de Mon Paris FM pour l'émission Au bout du foot. Si vous venez de nous rejoindre, il est 21h26 et on va bien évidemment enchaîner avec la Liga, avec Mbappé, auteur de son premier triplé et qui permet au Real Madrid de conforter leur première place face à Valladolid. Atlético qui concède le nul à domicile face à Villarreal et permet à Barcelone de revenir à 3 points. Le Barcelone qui se sont imposés 7-1 face à une équipe de Valence qui n'y arrive plus et qui n'y arrive pas tout simplement et qui sont derniers de ce championnat. Le Barça qui revient à 3 points de l'Atlético mais qui reste à 7 longueurs du Real Madrid. Quelles sont vos impressions, Lucas ?
Mes impressions, je vais parler du Real, on va continuer sur Mbappé. Ce qui m'impressionne chez lui, c'est qu'il recommence à être vraiment connecté à ses coéquipiers, à vraiment être... parce que même ces deux dernières saisons à Paris, j'avais trouvé Mbappé très très fort individuellement, mais qui ne se fondait plus dans le collectif. Et là, on voit notamment, on l'avait avec le premier but cette semaine-là, où il sollicite le 1-2. Donc vraiment, c'est lui, il est à l'initiative du jeu, il crée des choses, et derrière la finition, il est létal. Quand Mbappé est comme ça, franchement, il n'y a pas grand monde qui peut l'arrêter. Et donc, ça donne quand même... Voilà, on disait qu'il y avait des grosses équipes qui allaient changer un peu de caractère une fois que février et mars allaient arriver. Et ben, je pense que le Real Madrid, sous l'impulsion de Mbappé, mais aussi de Vinicius, de Bellingham, qui enchaînent aussi des grosses performances.
Aussi. Rodrigo, qu'on ne cite jamais dans le trio, mais qui veut faire sa place et qui a mis un doublé aussi...
Mais c'est la passe de Bellingham, la talonnade que je trouve absolument sensationnelle.
Qui est trois joueurs.
C'est ça, même si la finition de Rodrigo est absolument parfaite. Mais voilà, avec tous ces joueurs-là, et les blessés qui vont revenir un jour, Alaba qui revient, Militao qui d'ici 2 mois sera là aussi. Voilà, on se dit que le Real, ils ont toujours. Ça va toujours être un épouvantail à partir des phases éliminatoires. Mais je retiens aussi le gros match du Barça hier soir. Franchement, 4-0 après 25 minutes, je suis parti à ce moment-là parce que c'était une boucherie en fait. Ça servait à rien de regarder après, il y avait tout qui rentrait. Valence était incapable de les arrêter, Yamal il fait tout ce qu'il veut sur son côté. Donc voilà, je pense que, je le dis depuis plusieurs semaines, je voyais le Barça champion, ça s'est resserré. Moi je pense qu'il y aura une lutte jusqu'au bout, je pense que ce sera le championnat le plus serré, l'Espagne. Parce que l'Atlético, malgré la contre-performance de ce week-end, il reste en embuscade et un ou deux résultats positifs. Et ça peut... ça peut être très très serré, il y aura des confrontations directes. Donc voilà, je pense que c'est avec peut-être l'Italie aussi, mais l'Espagne, ce sera spectaculaire jusqu'au bout.
Je pense que ça sera spectaculaire aussi jusqu'au bout, hein, avec un Kylian Mbappé qui retrouve des jambes, on l'a vu. Philippe, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce championnat et pour toi, le Real Madrid, qui ont 7 points d'avance sur Barça. Et
ça va être compliqué pour Barcelone quand même, 7 points, ça va être face à un Real qui commence à monter en puissance, ça va être compliqué. Moi je pense qu'on va surtout faire le championnat entre les deux Madrid, le Real et puis l'Atlético. Il sera un petit en dessous le Barcelone, les 7 points ça va être compliqué. Bon par contre contre Mbappé, oui, c'est pas surprenant, je veux dire, il faut toujours un petit temps d'adaptation et puis y a toujours des polémiques comme ça et tout ça et tout. Quand les joueurs comme ça de son talent ont du mal à tout de suite à s'adapter, on savait que bon, il a eu des gros problèmes sur sa dernière saison. Ouais. On va pas refaire l'histoire. Pour moi, c'est l'histoire du Loft hein, qui pourrait toute la situation. Mais qu'Mbappé revienne à son niveau, qu'il ait retrouvé la joie à jouer, il n'y a aucune surprise. C'était d'une évidence. C'était d'une évidence. Voilà. Et rien que ça, donc, et tout, avec d'autres joueurs qui vont monter en puissance, le Real va être difficile à battre. Et ça sera un match Atlético-Real. Barcelone, il y a 7 points, c'est dur quand même.
Et Barcelone devant l'Atlético, non ? Ils
sont non, ils sont 3 points derrière.
Ils sont 3 points, ouais, encore, ça peut. Bon, mais 7 points, c'est quand même beaucoup.
Merci, Philippe. Alexandre ?
Ouais, alors j'ai beaucoup de choses à dire, parce que vous savez que c'est un championnat que je suis pas mal.
Bah, oui.
Je vais essayer d'être le plus laconique possible, mais franchement, déjà pour commencer, Retafe qui gagne à la Real Sociedad 3-0, c'est très surprenant comme résultat. Et donc je pense que Retafe va encore une fois réussir à se maintenir, malheureusement. Et
pourquoi malheureusement?
Non, parce que c'est une équipe qui refuse le football, qui doit descendre en deuxième division depuis des années. C'est pas ceux qui suivent les matchs de Liga qui vont me dire le contraire. Sinon, le Betis Séville aussi qui gagne.
Il y a toujours mauvais. Il y a toujours moins bon qu'eux s'ils arrivent toujours pas à être
oui,
relégués depuis longtemps.
Apparemment, oui. Apparemment, oui. Le Betis Séville qui gagne.
Attends, excuse-moi,
oui,
mais quand
dis-moi,
même,
dis-moi.
Tenir le Barcelone en échec durant 5 matchs à domicile, faut le faire.
Il faut regarder les matchs aussi. Mais...
Non, mais faut le faire. De n'importe quelle manière, faut le faire. Je sais pas, mais n'importe quelle équipe qui joue le maintien signerait pour, je pense.
Oui. Non, mais après, t'as raison. De toute façon, c'est toujours ceux qui font le résultat ou qui gagnent qui sont les grands gagnants. Hein. C'est toujours eux qui ont raison, finalement. Rapidement, le Betis Séville qui gagne face à Mallorca 1-0. C'est vraiment un match surprenant parce que Mallorca, on rappelle, qui lutte pour les places de Ligue Europa. Donc, franchement, le Betis Séville fait une saison très compliquée.
Avec tous ses joueurs.
Ouais, vraiment, avec tous ses joueurs, hein, mais vraiment une saison vraiment très compliquée pour le Betis. L'Atlético, tu l'as dit, là ça cale un petit peu pour l'Atlético parce qu'ils ont, ont enchaîné la défaite contre Leganés la semaine dernière, 1-0, et là le 1 partout contre Villarreal. Mais il reste, comme l'a dit Philippe, ouais, hein, il reste toujours en embuscade, enfin même ouais, pas en embuscade, hein, il reste candidat au titre,
ouais,
vraiment très sérieux.
De Madrid,
donc, ouais. Puis ils ont un effectif qui est vraiment cohérent, donc pas trop de soucis à se faire. Le Real, on va venir au Real. C'est une équipe qui va être vraiment très compliquée à battre, le Real, parce que là, ils reviennent vraiment à très bon niveau. Et je regardais en même temps le match du Real et celui de Paris, en même temps. Et franchement, le match de Mbappé, il m'a vraiment impressionné. Parce que là, en fait, bon, même si c'est toujours la même chose, en vrai, là, c'est quand même contre des petites équipes, on va dire, de Liga. Donc, c'est toujours à prendre en compte. Mais le niveau qu'il affiche, mais comme tu l'as dit, dans ses appuis, dans sa connexion avec ses coéquipiers, en fait, tu le vois qu'il a vraiment totalement changé de mindset, comme on dit.
Mais
vraiment, regardez ses appuis, son explosivité, sa prise de décision, elle est 100 fois plus rapide qu'avant.
En fait.
Il a trouvé son rôle.
Bah oui.
Mais il faut dire aussi que Vinicius n'a pas joué. Enfin, n'était pas titulaire, en tout cas. Donc, c'est aussi, il faut le dire, on attend vraiment la connexion entre les deux. C'est ça qui va être vraiment déterminant pour Ancelotti. Mais franchement, et puis
Vinicius qui va se mettre au service de Mbappé, on peut penser ça,
non,
hein, parce
moi,
que il le dit, il l'a si bien dit. On espère que Mbappé, qui devient déjà le premier tireur de penalty, qui repasse devant Vinicius. Et oui, ça a été officialisé. Et Vinicius qui dit, on va essayer de faire le maximum pour qu'Mbappé soit le meilleur buteur de toutes les compétitions confondues.
Oui, parce
un
que
joueur,
là,
un tel joueur,
Pichichi, ça,
oui, mais, un tel joueur, non, mais de toutes les compétitions confondues. Mais pour moi, un tel joueur qui vise le Ballon d'Or et qui se dit en concurrent direct, plus ou moins avec son coéquipier, ne peut pas dire qu'on va essayer de faire le maximum pour que ce joueur soit le meilleur buteur toute compétition confondue. Pour moi, c'est un aveu où on va jouer pour ce joueur. Pour moi, c'est
oui,
ça, clairement.
C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Parce que je sais pas, c'est soit Lucas,
il
soit Léo qui le disait.
Quand même, hein.
Mais oui, mais justement, bon, bah, c'est soit Lucas,
patron,
soit Léo qui le disait il y a quelques mois. Mais on verra quand on sera en demi-finale et qu'il y aura un pénalty à tirer ou qu'il y aura des occasions, etc., qu'il faudra faire la différence. On verra si ils seront sur la même entente. Pour moi, ça, c'est trop facile de dire ça maintenant quand
c'est
le gars il
décider,
cale un triplé
hein,
à Valladolid. Pour moi, c'est trop facile de dire ça. C'est de la com, en fait. Pour moi, c'est de la com. Donc on verra quand il y aura les matchs importants s'il y aura vraiment une entente entre les quatre.
Oui, mais si M. Ancelotti dit c'est M. Mbappé qui va tirer les pénaltys, tout Vinicius qu'il est,
oui, mais
il ne tirera pas les
pénaltys.
Oui,
je suis d'accord avec toi, mais ça va quand même créer des conflits.
Ça marche comme ça dans ces grands clubs. Hein,
ça
des égos, il y en a régulièrement, mais il y a des entraîneurs qui sont là pour justement gérer tous ces égos.
Pour moi, ça créera des conflits. Et même Rodrigo, je ne sais pas jusqu'à quand il va continuer à être le dindon de la farce. Mais
oui,
Rodrigo,
mais
franchement, normalement,
dans des clubs comme ça, ce n'est pas le joueur qui est... qui commande. Hein.
Ah, Rodrigo me fait penser un peu à Gareth Bale, hein, qui fait un travail énorme, mais dans l'ombre un peu, plus ou moins.
Ouais. Oui, c'est un peu différent pour moi. Parce que Gareth Bale, il s'en fichait un peu du foot, surtout sur la fin.
Sur la fin, mais
il arrive en superstar à
Madrid. Ouais, il arrive en superstar à Madrid.
Ça n'a rien à voir, parce que CR7, c'est CR7. Vous voyez,
ouais,
c'est...
Bien sûr.
Alors que Vinicius était déjà installé, et là, t'as Mbappé qui arrive et qui bouscule un peu la hiérarchie. Mais en tout cas, pour revenir sur les performances, franchement, le match de Mbappé, il est vraiment impressionnant. Et le premier but, donc c'est Bellingham qui fait un appui, un 1-2 qui est vraiment, vraiment beau. Mais le deuxième, moi j'ai retrouvé le vrai Mbappé.
le dédoublement qu'il fait et ensuite il ouvre son pied, petit filet opposé, ça j'ai trouvé. Franchement, j'étais devant ma télé, j'ai dit ah ouais, ça c'est du très très haut niveau. Franchement, c'était vraiment agréable à voir jouer. Le changement de direction qu'il fait, etc. Là, on retrouve vraiment Mbappé et ça se voit qu'il travaille à l'entraînement. Et même quand il est sorti, je sais pas si vous avez vu, il a vraiment une bonne relation avec le staff du Real,
oui,
ça
il
le
il
check
a
et tout.
La joie jouer,
voilà.
Il a retrouvé le plaisir.
Donc ça, c'est
il
bien.
Rigole, il sourit.
C'est bien. Et puis sinon, rapidement sur, le Barça, Valence, qu'est-ce que c'est faible Valence. Oh là 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 là, franchement, 25 minutes, 4 buts, il n'y avait aucune adversité. Vraiment rien à gratter pour Valence et puis tout aller dans le contre eux parce qu'il y a eu un but contre son camp, il y a eu
leur jeu au millimètre, bah finalement il a accordé, etc.
Le pénalty qui est pas accordé, alors pour moi il y avait pénalty, mais le pénalty qui est pas accordé, etc., tout jouer contre eux. Mais moi je suis pas d'accord, ne minimisez surtout pas le fait de marquer 7 buts, même si c'est Valence. Marquer 7 buts, marquer 12 buts en 2 matchs, etc., ça faut jamais le minimiser. C'est quand même des performances qui sont énormissimes. Je suis désolé.
Oh, bien sûr, mais t'en prends 5 aussi.
T'en prends 5, c'est-à-dire t'en prends
4 en Ligue des Champions et 1 ce week-end.
Ah oui, mais t'en marques 12.
Oui, t'en marques 12, mais t'en prends 5, quoi.
T'en prends 5,
mais c'est des cultures. Voilà, c'est des cultures.
T'as des erreurs individuelles qui sont énormissimes.
Il fait un temps où les Brésiliens prenaient des buts, mais t'en marquais plus.
Individuels, etc.
Il revient quand Ter Stegen ?
Non, Ter Stegen, c'est terminé la saison. Croisé, okay, okay. C'est fini. Flick a dit d'ailleurs que ce serait Chesney pour l'instant qui serait numéro 1.
Okay.
Donc, à voir.
Ah bon ?
Ouais, il a dit qu'actuellement, Chesney donnait plus de certitude et il préférait plutôt Chesney que Peña actuellement.
Okay.
Mais en tout cas, il y avait des
Chesney
joueurs
qui est arrivé, excuse-moi, mais Chesney qui est arrivé qui disait laisse Peña jouer.
Ouais. Mais en plus, c'est surprenant parce qu'on voit que Chesney, il n'est pas non plus ultra rassurant. Quoi.
Parce qu'il y croyait plus, je pense. Chesney, il avait un peu déconnecté du top, top niveau. Tu vois, quand il quitte la Juve, il se dit je vais aller en Arabie.
Ouais, il se propose comme ça. Et puis
exactement. Et là, il y a.
En tout cas, c'est super pour lui.
Ter Stegen qui se pète en début de saison. Ah ouais, c'est incroyable, mais je ne suis pas sûr qu'il soit totalement dans la bonne optique.
Ouais, t'inquiète pas, Flick, il va le remettre dans le droit chemin, j'espère bien.
On verra.
Et puis voilà, pour finir, Fermín López qui a fait un match vraiment énorme. Et c'est vraiment un joueur qui est vraiment bon. C'est là que tu vois le vivier du Barça qui est quand même impressionnant.
Merci Alexandre. Cheikh Kenza, qu'est-ce que tu en as pensé rapidement, toi, de cette journée de Liga ?
Bon, la Liga, vraiment, là, c'est un championnat vraiment qui est fascinant. Parce qu'on a vu le Real, vraiment, voilà, qui gagne, l'Atlético, vraiment, voilà, qui fait un résultat un peu mitigé. Et on a vu Barcelone aussi, voilà, qui soit une masterclass avec plus de 7 buts d'un match, vraiment. Moi, vraiment, ce qui me surprend un peu, c'est le Real de Madrid, parce qu'en début de saison...
Le Real Madrid,
en fait, c'est l'habitude d'être une seconde nature, à un moment, comme on le dit. Donc, le Real Madrid, avec les 4 fantastiques, Mbappé qui a 19 buts et 4 assists, Vinicius 17 buts et 9 passes décisives, Bellingham 9 buts, 9 passes décisives, Rodrigo 11 buts, 5 passes décisives. Déjà, en fait, les 4 fantastiques, à eux seuls réunis déjà, c'est un beau ratio de buts, en fait.
Prends le coup de l'estat.
Voilà, et en plus, vraiment, là, il y avait Vinicius qui n'avait pas joué, tout ça. Donc, la complémentarité, déjà, Mbappé-Bellingham, qui est très bien, qu'on a vu vraiment sur le premier but. Il y a la complémentarité aussi, Mbappé-Rodrigo, déjà. Voilà, en fait, donc, on sent que vraiment, que là, vraiment, la machine est en train d'être huilée, que voilà, donc... faudra vraiment s'attendre vraiment à des scores très lourds. Parce que là, c'est une saison, en fait, c'est une saison de tremplin, comme on dit, une saison de transition, où Mbappé, il arrive, tout ça, il faut s'acclimater, il y aura le vestiaire, tout ça, en fait.
Mais
à un moment donné, si les choses se déroulent comme on veut, le Real de Madrid, ils sont partis pour dominer l'Europe pour pas mal de saisons. Parce qu'on le sait, ils ont un plan déjà bien défini, il y aura Alexander Arnold qui arrive, il y aura Alphonso Davies sur le côté.
Non, il va prolonger au Bayern, Alphonso, apparemment.
Mais même si, voilà, donc à défaut,
on peut pas trouvera... prendre Alexander Arnold et Davies.
On trouvera néanmoins un autre latéral gauche et tout. Mais si l'équipe est vraiment bien huilée, comme on le dit là, à tous les postes, ils sont doublés. Bah, oui. Le Real Madrid est parti pour dominer.
Et Valverde qui va jouer à son poste tout le temps. Ça
tout le temps. Et bah oui, et Valverde, avec lui, Valverde, c'est un joueur vraiment qui ne déçoit jamais, quoi qu'il arrive. En fait, c'est un joueur qui est dans la constance totalement. Lui, Valverde ne fait que gravir les échelons. Bientôt, on sait que c'est un futur leader, ça, on le sait, qu'on le veut ou pas, mais voilà, par son charisme et tout ça, par son aura. C'est un leader naturel, comme on le dit. Donc, que ce soit sur le terrain ou en dehors, ça, on le sait. Donc, moi, je pense que le Real de Madrid est la grande satisfaction de cette Liga. Il y a Barcelone aussi, voilà, qui nous sort vraiment une très belle équipe avec Lamine Yamal et tout ça, et des jeunes de la Masia. Même si je les aime pas vraiment, je les supporte pas, oui. Mais j'apprécie vraiment la mentalité de ce club. voilà, avec la jeunesse, voilà, par défaut de moyens, on utilise ce qu'on a. Donc, oui.
Ah, puis sacré vivier, comme il disait Alexandre.
Oui, oui, bien sûr, oui, bien sûr.
Il dépense moins, mais quand tu vois les Firmin Lopez,
voilà, quand tu vois les Kobasi,
Pedri qui revient, etc., c'est très très haut niveau.
Moi, je pense que la personne à qui on doit tirer le chapeau, c'est un sifflick. Je l'avais dit en début, si j'avais dit un sifflick, c'est la méthode allemande, c'est-à-dire déjà, c'est la rigueur. Il a installé une rigueur défensive, en fait. Le Barça joue le meilleur hors-jeu que j'ai jamais vu au football.
Voilà, merci, je vous entends, vous parlez et jamais
de jeu. Et ça marche 9 fois
en
sur 10,
en termes de jeu,
en fait.
Le Barça, c'est la meilleure équipe à regarder.
9 fois sur 10, 9 fois sur 10. 9 fois sur 10, non, non, je suis déçu, non, là, là. Elle
ça
a
va pas au bout.
Non, mais non, 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 je suis déçu, je suis déçu.
Non, c'est pas le même niveau.
Non, aucun rapport.
Non, c'est pas le même niveau. Non, c'est le ballon qui tourne.
Non, c'est pas le même niveau, parce que là, on te parle d'un sifflick. Un sifflick, c'est un tacticien, en fait.
C'est moins flamboyant, mais je tiens à parler de l'Inter Milan, qui est très, très sérieux, autant au niveau du jeu que du niveau des résultats.
Oui,
c'est très, très bien.
En termes du jeu, le Barça, c'est au-dessus.
C'est plus flamboyant, mais c'est tellement bien huilé. C'est très satisfaisant à voir l'Inter Milan.
Le Barça, vraiment, le Barça, c'est. C'est-à-dire c'est un mélange de la Masia et du football allemand, en fait. Transition rapide. Quand on veut garder le ballon, on garde. On a des joueurs pour. Quand il faut lancer vraiment des joueurs dans l'espace, il y a Rafinha qui sait bien le faire. Il y a Lamine Yamal aussi. En fait, quand il faut tuer l'adversaire, il y a Lewandowski qui peut partir, qui a une pointe de vitesse. Au niveau de leur jeu, c'est super. Regardez le dernier Classico. Mais ils ont tourné le Real à bourrique. On avait une équipe du Real de Madrid qui n'était pas là-dedans. Mais tu te dirais que voilà que l'adversaire avait changé. On avait comme l'impression que c'est le Barça qui... Voilà, tout ça. C'est au fait, c'est une équipe vraiment qui est surprenante sur tous les plans. Jusque vraiment, ils n'ont pas le gardien qu'il faut, voilà, avec Ter Stegen et tout. Mais sinon, le Barça, c'est une équipe vraiment qui aujourd'hui qui est au top. Mais prétendre à la Ligue des Champions, c'est un peu, voilà, c'est tirer un peu la balle dans la tête, quoi.
Merci, Chekenza. Merci, Chekenza. On va se faire une petite pause avant de revenir, comme tu le disais si bien, avec l'Inter de Milan, hein, qui enchaîne, bien évidemment, mais Naples, qui sont dur sur l'homme, comme on dit, voilà certaines expressions, et qui sont premiers leaders de la Serie A. On y revient tout de suite. Naples, premier avec 53 points, Inter avec 50 points, deuxième, l'Inter qui ont un match en moins, bien évidemment. L'Atalanta, troisième avec 46 points, la Lazio, 30 avec 39 points, quatrième, et la Juventus, 5e avec 37 points. L'AC Milan qui sont 7e avec 34 points, qui réussissent à repartir un peu, mais c'est long un peu. Et qu'est-ce que vous allez nous dire, en tout cas, qu'est-ce que vous pensez de ces derniers résultats avec l'Inter de Milan qui se sont imposés 4-0 face à Lecce?
Moi, ce que je retiens surtout, c'est que l'Inter et Naples se tirent la bourre et que l'Inter a quand même un avantage, c'est que là, ils ont Lautaro Martinez qui recommence à marquer. Il fait quand même un début de saison qui est très très difficile. Et là, si en plus de Marcus Thuram qui marque, en plus de leur effectif qui fonctionne très bien, Lautaro Martinez revient au niveau qu'il avait ces deux dernières saisons, je pense que l'Inter va être très très compliqué à... Enfin, en tout cas, que le rythme de l'Inter va être très très compliqué à suivre. Même si Naples, qui perd Osimhen et Kvaratskhelia, leur duo magique d'il y a deux ans quand ils remportent le titre, et qui arrivent quand même à être en tête du championnat jusqu'à présent, ça reste une sacrée performance. On en parle un petit peu ici des fois, mais Lukaku, encore une fois, c'est lui qui fait la passe sur le penalty.
Sur McTominay.
Exactement, quand McTominay se fait faucher. Et donc, la passe, elle est très, très bien sentie. Il va après, il a le sang-froid et tout. Franchement, exceptionnel. On voit
Antonio Conte.
Ouais. Les deux, ils savent jouer ensemble. Hein. Et on avait parlé des milieux de terrain. McTominay, justement, qui prend une autre ampleur depuis qu'il est à Naples. Et j'ai un trou, l'ancien Marseillais.
Et Zambo Anguissa.
Zambo Anguissa, merci, ouais. Qui met un super but de la tête et qui vraiment est devenu un délitaire de cette équipe. C'est vraiment une trajectoire incroyable pour lui. On va quand même souligner le but magnifique de Randal Kolo Muani,
oui,
malgré
sûr,
la première,
incroyable, ouais.
première titularisation, première défaite de la Juve en championnat, qui était à je ne sais combien de matchs nuls, mais zéro défaite. Mais franchement, Kolo Muani, tu vois, le but d'attaquant qui te met. Te dis qu'en fait, moi, ce que je pense, c'est que partout ailleurs qu'à Paris, il s'est fait saquer par un entraîneur, ça arrive. Je pense que, honnêtement, Kolo Muani, c'est pas le mauvais joueur qu'on a vu à Paris, et je pense que où qu'il soit, il réussira. Voilà. Ça sera peut-être jamais le meilleur attaquant du monde, mais je pense que
c'est
un attaquant très sérieux. Et sinon, ouais, pour finir, ouais, peut-être le retournement de situation du Milan AC, qui en met deux à Parme dans les arrêts de jeu pour s'imposer. Et Kanté Sao qui veut en venir aux mains avec Calabria à la fin du match. Bon voilà, on sait que c'est un coach sanguin. On espère que ça va tenir dans le vestiaire, parce que c'est pas sûr que tous les joueurs acceptent ça. On a vu
on tient à rappeler aussi que Calabria, en fait, il doit se plier aussi à la décision du coach. Le coach décide de le faire sortir et il a eu raison puisque après il gagne le match.
Bien sûr.
Et Calabria dès qu'il sort, il shoot dans une bouteille sur le truc.
Mais combien de joueurs font ça quand ils sont énervés, je veux dire. Pour moi, quand t'es un peu l'entraîneur, t'es un peu le gardien du groupe aussi.
Oui, pour moi, ça se règle à la maison.
Et voilà, et ce comportement très nerveux, c'est pas sûr que sur le long terme ça fonctionne. Après, on connaît Conceição, etc. Pour moi, au-delà de ça, c'est un très très bon coach. Mais voilà, on voit quand même que là, le top 7-8 de l'Italie, c'est vraiment les grosses équipes qui sont revenues. Et je pense que, l'Inter va finir par mettre la distance. Mais on voit que c'est, pour le moment, c'est serré et que c'est un très beau championnat.
Attention, moi je pense que Naples va aller au bout. Hein.
Parce que Naples
n'ont que ça à jouer aussi. Qu'est-ce que t'en as pensé?
Moi je suis d'accord, c'est un super beau championnat. Par contre, je pense qu'effectivement, je serais un peu d'accord. Naples-Inter, ça va être indécis jusqu'au bout. Et il n'est pas exclu qu'effectivement, ce soit l'Inter à l'arrivée qui s'impose. Oui. Ça va être en tout cas un beau... C'est peut-être le championnat le plus serré de tous les championnats principaux c'est européens. Ça. Et c'est un beau championnat.
Ouais, 3 points de retard, l'Inter sur Naples avec un match de retard. Donc potentiellement égalité parfaite la semaine prochaine. Ouais.
Merci Philippe. On va enchaîner directement avec l'Allemagne. Ouais. L'Allemagne, Francfort qui font nul 2-2 face à Hoffenheim avec un Etiquité en grande forme. Hein. Etiquité qui commence à prendre, qui reprend, on va dire. Il était déjà en place, hein, il marquait déjà énormément, mais je pense que là, il va encore plus marquer parce que ça va être le leader vraiment de cette attaque avec maintenant le premier tireur de pénalty et qui met un doublé. Mais malgré ça, ça ne suffit pas pour battre Hoffenheim qui reviennent 2-2. Et Leverkusen qui se font piéger à Leipzig 2-2 aussi et permet au Bayern de prendre 6 points d'avance avec la victoire du Bayern 2-1 à Fribourg. Dortmund réduit à 10 qui concède le nul malgré l'ouverture du score de Guirassy et malgré le fait qu'ils ont mené 2-0. Mais Dortmund, c'est un peu ça depuis le début de saison. Ils mènent et ensuite ils se font rattraper et à la fin ils se font punir. C'est compliqué avec le coach qui vient de se faire limoger d'ailleurs.
Ouais, c'est Niko Kovac, je crois, qui va arriver, l'ancien de Monaco et du Bayern.
Alexandre, qu'est-ce que t'en as pensé toi de ces résultats?
Franchement, Dortmund, c'est. Waouh, c'est vraiment compliqué. Hein, Dortmund, c'est. On ne sait pas trop ce qui se passe cette année. C'est vraiment... Parce que quand on voit le top 5 de Bundesliga, c'est vraiment eux qui manquent, en fait. Parce que Bayern, Leverkusen, Francfort, Stuttgart, qui jouent très bien, et Leipzig, qui en championnat tient la route, Dortmund, on se dit que c'est vraiment une année, une saison blanche qu'ils vont faire, c'est certain, mais une année, on va dire, de vide, quoi, de transition. Franchement, il y a limite pas grand-chose à dire sur cette équipe, à part, comme tu l'as dit, Guirassy qui, mine de rien, continue de planter des buts à chaque match. Hein, j'ai l'impression qu'il plante, mais malheureusement, ça ne suit pas derrière. Et sinon, donc le Bayern qui a gagné face à Fribourg, le Bayern, on sait tous ici, va sans doute gagner la Bundesliga. Je pense que ça va être plié.
Avec 6 points, attention, parce que c'est quand même un Bayern très friable. C'est un Bayern quand même très friable.
Ça peut revenir vite, mais je pense qu'ils finiront par distancer à la fin.
Oui, mais ils sont pas mal non plus.
J'ai regardé une partie justement du match Leipzig-Leverkusen et franchement, surprenant, parce que Leverkusen, première mi-temps, ils gagnent 2-0 facilement et ils se font remonter 2 partout. Enfin, c'est une équipe de Leipzig qui, on sait, a des difficultés en Ligue des Champions. En championnat, ça va un petit peu mieux, mais c'est pas non plus flamboyant. C'est loin d'être le Leipzig qu'on connaissait depuis ces 3-4 dernières années. Et c'est des points perdus, j'ai envie de dire, assez bêtement pour Leverkusen et qui peuvent être impactants sur la course au titre. Sinon, voilà, pas grand-chose à rajouter.
Oui. Je pense que c'est un championnat un petit peu en baisse quand même, championnat allemand. Il y a du tas des... Ouais, c'est pas... C'était un des meilleurs championnats, mais là...
On va être content pour Harry Kane qui va sûrement remporter son premier titre majeur.
Faut pas partir vite en besoin, attention.
En tout cas, Harry Kane, il met un très très beau but ce week-end là, avec un contrôle extraordinaire pour mettre son équipe sur les rails. Après, le gardien fait un peu n'importe quoi.
La frappe a été flashée à 129 km. C'est ce que j'ai dit aussi, le gardien fait n'importe quoi. 129 km. 129 km.
Mais je pensais pas que ça se prendrait, d'accord.
Parce qu'elle est pas très très bien placée. Elle est flottante, elle est même pas à ras terre. Parce que moi, je la vois à ras terre. Non, et le gardien, pour moi, elle est prenante, mais une frappe limpide 129 km/h, le gardien c'est très difficile.
De toute façon, moi, c'est le contrôle que je retiens qui pourrait éliminer l'adversaire, qui est super. Et moi, en tout cas, je souhaite quand même qu'un attaquant du calibre d'Harry Kane, on arrête de lui coller l'étiquette de loser éternel. Donc voilà, je suis pas fan du Bayern, mais je leur souhaite au moins d'avoir ce titre là mais c'est vrai que le pari Nuri Sahin qui a été raté du côté du Bayern, du Borussia Dortmund. On sait que des fois, quand tu as une idole d'un club en tant que joueur, c'est compliqué d'en devenir le coach. Nuri Sahin l'a montré encore. Ça fait un peu de peine de les voir dans cette dans cet état-là. Dortmund, en plus, il y a des rumeurs de départ, notamment pour Adeyemi, qui pourrait partir à Naples pour remplacer Kvaratskhelia. Ouais. Donc voilà, je ne sais pas dans quel état ils vont finir la saison, mais c'est vrai que Dortmund, c'est difficile de les voir refaire un peu des surprises et déplacer des montagnes comme ils l'ont fait l'an dernier, tant ils ont l'air en difficulté.
Merci.
Ils sont 11e du championnat.
Ouais,
donc,
c'est ça qu'on
ils sont dans le dur en ce moment.
Les autres clubs ne vont pas mieux non plus. Donc...
On va enchaîner avec la Première Ligue. La Première Ligue, on enchaîne hein, parce que là, il nous reste très peu de temps. Hein, faut que ça soit court et concis. Arsenal qui prend les 3 points face à Wolverhampton malgré qu'ils ont été réduits à 10. Wolverhampton aussi les ont rejoints à 10 en infériorité numérique juste après, dans un match compliqué en tout cas. Mais Arsenal, ce qu'on va retenir, c'est les 3 points. Liverpool qui s'impose assez aisément 4 buts à 1 face à Ipswich avec encore un Salah buteur. City qui enchaîne face à Chelsea 3 buts à 1 et se repositionne dans le top 4 de la PL. United qui met fin à une nouvelle série en s'imposant 1-0 à Fulham. Quelles sont vos impressions sur cette journée de PL, Philippe?
Bah, Manchester City déjà qui revient dans la course à l'Europe. Hein. Ouais. Donc déjà, on l'avait dit, hein, dès que la confiance reviendrait un peu, il y aurait un petit peu des meilleurs résultats. Sinon, bon, bah, pour le reste, je crois que c'est un cavalier seul pour l'instant de Liverpool. Et je pense que ce sera comme ça jusqu'à la fin de la saison. Quoi. Mais après, ça va jouer pour les places de... pour les places européennes d'honneur entre Arsenal, Chelsea et Manchester City. Mais enfin, le fait important, c'est que Manchester City revient dans la course à l'Europe.
Il ne faut pas enterrer Nottingham Forest aussi.
Oui, oui, et Nottingham, tu as raison.
Oui, Nottingham aussi.
Tu as raison, ils ont fait un bon début. Ça, ouais. Voilà. Ouais.
Nottingham qui sont fait...
Mais je pense qu'on va se battre pour les places d'honneur.
Oui, bien sûr, à Bournemouth, mais ça arrive. Mais je crois que Nottingham, ils vont rebondir parce qu'ils ont un peu le collectif. Et en fait, ce qui me séduit un peu chez Nottingham, pour moi, c'est le collectif. Ils ont une très belle équipe qui joue au football et un collectif vraiment où il y a des... Ben écoute, cette saison, c'est l'une des seules équipes vraiment qui a eu à mettre Liverpool en difficulté. Ah oui, quand on parle de l'OG, Liverpool vraiment, c'est comme tout roulait comme si de l'or et tout, avec un Mo Salah vraiment, avec un Luis Diaz et tout ça, avec un Spurzola et toute une armada vraiment d'équipes vraiment. Et défensivement, Liverpool, c'est costaud. Ouais, je les vois vraiment aller chercher ces titres. Ouais, là, mais Man City, voilà, la 4e place, oui, mais pas plus. Ouais. En plus, il y a Newcastle qui est derrière tout ça, qui revient en force avec Alexander Isak. Donc, vous voyez que la Première Ligue, vraiment, ça serait bousculé jusqu'au bout. Voilà, ça serait une vraie bataille, vraiment, même pour les places européennes. Ouais. Donc, je crois que c'est Liverpool qui a pris un petit ascendant. Voilà.
Ils vont faire comme Paris, quoi. Voilà.
Ouais, c'est ça.
Ils vont faire un cavalier.
Je crois que les championnats, vraiment, ça va bouger dans tous les sens. Arsenal aussi, déjà, voilà, il ne faudrait pas qu'elle puisse perdre aussi sa place de challenger. Et tout ça, voilà, pour ne pas être vraiment après le suiveur. Donc, rien que ça.
Merci, chez Kenza. Alexandre
Très rapidement, moi, ça valide, puisque j'ai vu que samedi, Manchester City, Chelsea. Et par contre, franchement, équipe de Chelsea un peu décevante, mais City, pour le coup, a fait plutôt un match cohérent, en vérité. A fait un bon match, même, je dirais. Et c'est là que Bernardo Silva, pour le coup, a, pour moi, été le meilleur citizen du match. Parce qu'il reste dans son niveau, qui, pour moi, est bon au milieu de terrain parce que comparé aux autres c'est vraiment compliqué. Et justement il a sorti De Bruyne du 11 de départ pour faire entrer Marmoush directement, et Marmoush a été vraiment très prometteur pour la suite, et on l'a vu rempli de bonnes intentions, moi je trouve, franchement rempli de bonnes intentions, et je pense aussi ça s'est vu dans sa tête, il s'est rendu compte dans le bourbier un petit peu collectif où il s'était incrusté, mais je pense que Guardiola réussira
à l'intégrer. Et aussi l'arrivée de Lucas
Kouzanov. Qui fait sa grosse erreur en début de match.
Faut pas oublier qu'il est jeune. Hein, qu'il est jeune,
oui, il a 20 ans.
Et que généralement, quand ça commence comme ça, ça finit bien. Voilà.
Il était applaudi par l'Etihad quand il est sorti.
Voilà, il l'encourage.
Non, mais il se reprend bien en plus après son. Il a été un peu fragile en première mi-temps, mais avant sa sortie, il revenait bien.
Faut le comprendre. Tu joues à Bollard là maintenant, tu joues à l'Etihad contre Chelsea directement, premier match. C'est compliqué.
En Ouzbékistan, il y a un an et demi aussi. Donc c'est déjà Bollard, il monte les échelons très très vite, Kouzanov.
On va bien évidemment rappeler le classement. Liverpool avec 53 points et une journée en moins sur Arsenal qui ont 47 points deuxième. Nottingham Forest qui ont perdu ce week-end et qui sont troisième avec 44 points. Manchester City à égalité de points à 41 points avec Newcastle, 41 points. Attention, Newcastle qui sont à égalité de points avec un Alexander Isak en grande forme. Chelsea qui n'y arrive plus, hein, qui enchaîne 3-4 mauvaises performances et qui font de Chelsea les sixièmes, mais attention, tout peut se relancer et Bantemonde qui sont à égalité avec Chelsea, tout peut se relancer très rapidement. On va se faire une petite virgule avant de revenir avec le quiz de fin. Bien évidemment, on va commencer un petit quiz. S'il vous plaît, je vais vous demander à tous de laisser vos téléphones et d'être concentrés. On va compter le nombre de points. Jay, si tu peux envoyer le minuteur, s'il te plaît, ça commence. Quel joueur français a parcouru moins de kilomètres que son gardien en une mi-temps?
Rabiot.
Je l'ai entendu.
Non.
Ah ouais?
Mais c'était en quoi, en Ligue des Champions?
Non, c'était en Première Ligue.
Ah. Un joueur français.
Un joueur français qui a parcouru moins de kilomètres que son gardien en première mi-temps.
Ouais, j'ai tous les cités. Ça doit être qui,
Et qui est sorti au bout de la 35e minute par son coach.
Florent Simanapongol?
Non.
Non, c'est récent, non, c'est tout récent là, c'est il y a quelques semaines, je crois.
Non, c'était. Non, c'était
ah non
non.
Ok.
C'était en 2010-2011.
Atem Ben Arfa.
Atem Ben Arfa. Ah ouais, Lucas Atem Ben Arfa, c'est bien lui qui a fait. Ouais. Voilà, qui avait parcouru moins de kilomètres que.
Ça m'étonne pas.
Que Alan McGregor. Voilà, et qui a été sorti par son coach, bien évidemment, au bout de la 35e minute. Voilà, ça fait un point pour Lucas. Deuxième question. Quelle équipe des 5 grands championnats est invaincue en championnat?
Paris.
Paris. Mmh. Lucas, attention, Lucas est... Voilà, c'est la seule équipe, le Paris Saint-Germain est la seule équipe invaincue
Juve,
en championnat. Lucas qui dégaine très rapidement.
Rapide, ouais.
Quelle équipe des 5 grands championnats a encaissé le moins de buts en championnat?
Ah si, je l'avais. C'est l'Inter?
Non.
J'ai failli le dire.
Mais c'est une équipe italienne, je crois. C'est la Juve, alors.
Napoli?
Non plus. Non plus.
Campile.
Oh là là. Oh, les niveaux, il est...
Non, le Sporting.
Non.
Non, 5 grands championnats.
Leverkusen? Bah, c'est Paris, alors.
Bah, les...
Non plus.
Mais...
Pas le Bayern non plus, bon.
Liverpool?
Non. Franchement, j'ai cru que ça allait aller vite, là.
Le Real?
Non.
L'Atlético?
L'Atlético de Madrid. Oui, l'Atlético de Madrid qui ont le cholismo. Ils ont encaissé que 14 buts. Et l'Inter, c'était pas loin, ils étaient à 15 buts encaissés. Mais l'Atlético qui ont encaissé que 14 buts. On va enchaîner, donc ça fait 2 pour Lucas, 1 pour Alexandre. On espère que la prochaine va être pour Stéphane, Philippe. Ou Shekenza. On enchaîne. Quel joueur en tant que tireur de pénalty n'a jamais raté de pénalty?
Fabinho.
Non plus. Il est à 32 pénalty sur 32. Non.
Wow.
Jimmy Vardy.
Non plus.
Panenka.
Non.
Antonio Panenka, c'est longtemps.
Mais tu parles de maintenant ou d'avant?
C'est sur les 20 dernières années, on va dire.
Ah, d'accord.
C'est dur.
Je vous donne un petit indice. C'est un joueur qui est passé par le Paris Saint-Germain.
Neymar? Non, il a respecté les pénalités, Neymar.
Par le Paris Saint-Germain.
Cavani?
Sur les 20 dernières années.
Rai?
Je crois que c'est pas un attaquant. Non. C'est plus récent.
C'est un attaquant.
C'est Di Maria?
Non.
Zlatan?
Non, Zlatan, il a raté face à City. On a loupé pas mal.
Un attaquant pour l'État?
Paoletta, c'est lui, 32 sur 32, Paoletta. Et voilà, 32 sur 32 qui n'a jamais loupé de pénalty. On va s'en faire juste une petite dernière hein, parce que le temps presse. Je pense que ça va être un peu compliqué.
Allez, tente.
Bon, allez. Quel est le premier sponsor du Paris Saint-Germain?
RTL.
C'est ça, non, RTL. Et Lucas.
Sinon, il l'a dit avant moi, RTL. Sinon, c'était Calberson.
Ouais, c'est ça, en
RTL
tout cas.
RTL Calberson, oui.
C'est ça, merci RTL, Lucas.
Ouais.
Merci, merci à vous.
Bravo Lucas, hein. Bravo.
Bravo Lucas, Lucas qui est notre grand gagnant. Hein. Attention. Merci beaucoup en tout cas à Philippe, à Lucas, à Alexandre et à Sheikh Kenza. Merci à Jason à la technique et merci à vous surtout. Et on vous souhaite une très bonne soirée. On se dit à la semaine prochaine.
Une belle semaine
pour
foot.
Oui, une belle semaine foot. Et on reviendra notamment sur les prochains adversaires de nos clubs français. Bonne soirée à vous. On vous fait de gros bisous.
Bonne soirée.
Paris est fait.